podcast du virage.
Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro du podcast du Virage, la version audio du web magazine Virage, la tribune libre du football à Paris. Et bien c'est cet esprit que nous allons essayer de perpétuer en mode podcast, être libre et parler du Paris Saint-Germain. Pour ce premier numéro, on met les petits plats dans les grands avec la fine fleur de la rédaction de Virage, puisque j'accueille autour de la table Jérôme Réjas, journaliste rock, franc-tireur multi-support, auteur de Parc Tribune K Bleu Bas, un bouquin que je conseille à tous les supporters. Jérôme, bonjour.
Bonjour.
Ça va, t'es content d'être là ?
Je suis ravi d'être là.
Bon, j'accueille également Jean Cessé, oui. L'auteur de cette rubrique dans Virage. Il ne s'en restait qu'un an, pas tout à fait ça.
Non, c'est un an au club.
Un an au club, donc qui compte déjà des grands noms comme Carlos Bueno,
Leonardo,
Christian Wurns
et Yuri Djorkaeff.
Non, pas encore Yuri Djorkaeff, c'est pour bientôt, mais c'est trop facile Yuri Djorkaeff. Allez sur Virage, vous allez voir.
Fred Niaoré, c'est le seul vrai sportif de la bande. C'est aussi un peu le psy du Virage, j'ai envie de dire. Parce que le psy, parce qu'il s'intéresse par-dessus tout à tout ce qui se passe dans la tête des gens, en particulier les joueurs, les supporters. Et comme ça, Fred, c'est un peu notre mentaliste à nous. Salut Fred.
Salut à tous, je suis moi aussi super, super content d'être là. Et t'as oublié de dire, j'aime bien aussi ce qui se passe dans la tête des femmes, des joueurs aussi.
Ah, c'est intéressant ça.
Et pas que dans la tête.
Et enfin, Jonathan Candan, fondateur de footballinclusive.com, ce site sur lequel vous retrouvez une quantité incroyable de stats sur tous les championnats européens, si je ne me suis pas trompé.
Exactement.
Pour tous les passionnés.
Et surtout tout le PSG, depuis sa création.
Mais il n'y a pas que le PSG dans les stats.
Ah non, il y a tout. Mais disons qu'on choisit un peu plus le PSG.
Bonjour à tous autour de la table.
Bonjour,
merci
bonjour.
D'être là. L'équipe est au complet, sous l'œil bienveillant mais critique et attentif du rédacteur en chef, Xavier Chevalier, qui a la main sur la console et qui se permettra d'intervenir s'il le juge utile. Alors si par exemple vous dites des conneries, messieurs, si par exemple on s'entend plus, je vous annonce qu'il détient une arme absolue, un son épouvantable pour vous faire taire. On va tester si ça marche.
Au secours. De destruction massive.
Tout est en place, il ne nous reste plus qu'à accueillir notre invité, parce que voilà, la chance qu'on a, c'est qu'on a un super invité. C'est pas n'importe qui, depuis plus de 15 ans...
Ah merde, c'est pas moi.
Il se promène sur les télés, les radios françaises, Canal+, M6, RMC, Europe 1, j'en passe. Humoriste, comédien, on l'a vu aussi au cinéma, il est l'auteur de 2 livres. Et le plus frappant, moi, il me semble, c'est que le mec a simplement inventé son job. C'est aujourd'hui l'unique humoriste football du PAF.
Oui.
Mais tout ça, ça ne suffit pas à faire de toi le premier invité du Virage. Hein, je dois te le dire. Donc, ce qui compte par-dessus tout, c'est que tu es un fidèle supporter du Paris Saint-Germain, abonné depuis 1992, Auteuil rouge.
Oui, enfin, j'ai changé depuis. Hein. Je ne suis pas resté en Auteuil rouge tout le temps.
Tu es passé en tribune latérale.
Je suis en bourgeois, j'insulte les pauvres.
Et que partout, il clame son amour pour le club. Donc, messieurs, accueillons comme il se doit Julien Cazard.
Merci. Je pensais avoir un autre accueil que Jump, personnellement. Alors, je vais vous dire, c'est terrible parce que je suis allé voir le film de Spielberg, Ready Player One. Alors, j'étais hyper content de le voir. Ça démarre par Jump à fond.
Horrible.
Et là, j'ai failli sortir de la salle. C'est impossible de rester dans le film avec ce truc, quoi. Heureusement, ça dure pas trop longtemps.
Le film ?
Ouais, non, le Jump. Ça dure toujours trop longtemps, le Jump, remarque.
C'est vrai.
Merci Julien d'être notre premier
plaisir,
invité.
Avec plaisir, je suis très flatté.
Un honneur, c'est nous qui sommes flattés. Est-ce que tu es conscient comme ça d'avoir un job unique, un peu comme le président de la République ?
Ouais, en fait, c'est-à-dire que je suis un peu comme les emplois jeunes. Il n'y avait pas ce job, alors on l'a inventé plutôt que de créer des emplois dans ce qui existait déjà parce qu'on ne savait pas comment faire. Donc non, je me suis dit, pour être le meilleur dans un truc, il faut être le seul. Et ça marche.
C'est pas mal.
Voilà. Donc je suis le seul à faire ce truc-là. Alors, pour l'instant, personne n'a vraiment eu l'idée, ou alors le temps, ou alors envie de le faire. Donc je suis encore un peu tout seul. Et puis à un moment donné, je vais me prendre un coup de pied au cul par des mecs plus drôles. Et puis, comme Smaïn, j'aurais mérité que ça.
Moi, il y a un truc à propos de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on t'entend surtout comme humoriste, mais j'ai le souvenir quand même que sur RMC, il y a quelques temps, une radio où tu officiais, c'était dans l'After, tu es aussi intervenu comme consultant foot, ouais. chroniqueur foot. Ça n'a pas duré longtemps, je crois, une saison.
Non, oui, enfin, avec quand même un côté un peu décalé, c'était le samedi soir. Oui, non, en fait, je me dis que je peux faire ça à l'occasion, c'est sympa. Mais finalement, il y a déjà assez de mecs qui en parlent du foot de manière sérieuse. Donc moi, je peux le faire de manière sérieuse, mais il faut toujours que j'ai un moment où je déconne un peu, parce que sinon, mon avis, c'est bien sympa. Mais au quotidien, mon avis, on s'en fout.
Bah, comme on s'en fout de l'avis de tous les spécialistes qui nous...
Voilà.
David Berger, non, non. Laurent Paganelli et tout.
Alors non, ça, alors, moi, je ne me foutrai jamais de l'avis de Laurent Paganelli.
Ah oui, c'est vrai.
C'est primordial.
C'est une matière première énorme pour tes chroniques. Ouais.
Fonds de commerce total. Ouais.
Moi, j'ai quand même, tu vois, je suis quand même dépendant. Tu vois, le Real est peut-être Ronaldo dépendant. Je ne suis pas très loin d'être Paganelli dépendant. Donc j'aimerais qu'on soit un peu sympa avec lui.
Moi, en tout cas, j'aimais bien t'entendre parler des matchs. Ça m'a intéressé souvent. Et il y a un truc dont je me rappelle forcément, c'est que... entre les deux matchs de France-Ukraine, hein, entre Ukraine-France et France-Ukraine, oui. tu étais un des rares types qui disait « Non mais moi je le sens, on peut le faire, c'est que l'Ukraine, il faut leur planter 3-0, on va leur planter 3-0.
Ah » oui. Non mais en fait, je ne comprenais pas le délire, excuse-moi, je me permets de te couper. En fait, c'était pas du tout genre « Allez, on peut le faire les gars », tu vois, ambiance comme tu
non,
dis.
Non, c'était froid et dire…
Oui, c'est-à-dire dire les mecs, en fait, ce qu'eux, ils ont fait à l'aller avec énormément de chats, un terrain pourri, un arbitre sympa qui les a laissés mettre des coups comme des oufs, bien nous, si chez nous, on peut pas faire au moins l'équivalent. Enfin, c'est rien, on n'a pas perdu 2-0 contre le Barça ou contre l'équipe du Brésil. Donc moi, je ne trouvais pas ça dingue. Et puis, ce n'était pas dingue. Hein.
Et le truc magique, c'est que c'est quand même Mamadou Sakho qui plante un doublé.
Nous, en France, on a un problème avec les arrières qui mettent des doublés dans des gros matchs. Hein. On a eu Lilian Thuram et Domergue en 84, en demi-finale contre le Portugal. Donc tout est possible en France. Donc ça veut dire que peut-être que Debuchy mettra un doublé en demi-finale.
Oh putain, faut pas rêver non plus.
Alors ça serait bien qu'il le mette dans son camp, voilà, enfin dans l'autre camp pardon.
Il ne faut pas rêver.
Il faut le remercier déjà hein, quand même pour dimanche dernier, pour samedi dernier.
Merci Mathieu, il a voulu montrer à Cavani Mathieu, où il fallait la mettre.
J'ai dit que tu avais fait plein de TV, de radio, si on parle juste de ton actu, aujourd'hui tu es sur Canal, chaque dimanche soir. Dans J+1,
ouais.
Tu présentes ta chronique, abonné numéro...
93-227.
C'est ton numéro d'abonné au parc.
C'est pas mon vrai numéro d'abonné. Non, ni à Canal. Hein. C'est pas mon...
Mais t'es abonné à Canal.
Oui, c'est moi.
Mais ils te payent le truc quand même.
Non, je l'ai toujours refusé. Je paye mon abonnement, je suis un homme libre, et donc un homme con. Vas-y.
Tu es donc aussi sur Europe 1 dans l'émission Y'a pas Péno, présentée par Thomas Touroud.
Oui, absolument.
Dans laquelle ta chronique s'appelle Interdit de stade.
Ouais.
Voilà.
C'est bien parce que je ne suis pas a priori interdit de stade. Je suis quand même plutôt assez sympa. J'insulte comme tout le monde dans un stade. Hein. J'insulte bien sûr de manière assez lâche. Mais j'en suis pas à être interdit de stade encore. Donc voilà, j'ai pas fait comme Michael Youn, j'ai pas sorti un fumier. Je me suis pas fait virer.
C'est vrai qu'il a fait ça, Michael Youn. Ouais.
Il a fait que ça, surtout.
Ah non, mais il l'a fait.
Pour revenir à ce que tu disais, qui était pas mal.
Pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que c'est bon d'insulter au stade.
Ah oui.
C'est
un des rares endroits où on peut
mais
encore le faire.
Mais c'est bon de bon, quoi. Je peux pas dire comment, mais c'est.
Voilà, Après, moi j'ai un pote qui est abonné avec moi. Et ben, il y a son fils avec lui. Et il y est, donc ça fait des années maintenant, depuis qu'il est petit, il est là. Il lui explique, voilà, dans le stade, tu peux insulter qui tu veux, mais une fois qu'on est sorti, c'est fini.
Comme tous les pères de famille.
Comme tous les pères de famille. Ça, c'est un bon père de famille. Voilà. Il y a des gens, c'est l'inverse. Hein. Ils sont très polis au stade, ils insultent tout le monde en dehors. Ça s'appelle les joueurs de PSG de certaines époques, qui sont entre-temps partis à Tottenham. Je t'écoute.
J'avais une question pour Julien. J'ai regardé beaucoup de vidéos de tes chroniques par rapport à tous les invités que tu as pu recevoir, que tu as pu chroniquer. Parce qu'ils ont toujours l'air de rire à l'image ou au son. Est-ce qu'il y en a qui l'ont très très mal pris ou qui sont venus te voir après, qui t'ont démonté ou qui t'ont dit c'est pas bien ?
Celui qui l'a mal pris, je crois, c'était Olas. Pourtant, énormément d'humour. lui l'a mal pris, sinon je ne crois pas. Non, je crois que plutôt les mecs, moi je suis qu'un pauvre type, je suis un bouffon. Je veux dire vraiment que je suis un bouffon au sens propre. Je pense vraiment au sens de ce que c'est. C'est-à-dire que le mec, il peut dire du mal de qui il veut, de tous les mecs, puisque les stars c'est eux les puissants, les stars. Donc finalement, moi je suis un blaireau pour eux, donc je peux faire les blagues que je veux, ça les fait rire. Voilà.
Et comment tu sais que Olas l'a mal pris du coup?
Il y a des trucs qui se sentent.
Okay.
Des trucs qui se sentent.
Mais il t'a dit quelque chose?
Non, il sourit, mais tu le sens.
Il a tweeté?
Non, même pas. Oui, il est. Après, moi, je vais te dire un truc, personne n'est obligé. Déjà, je trouve qu'ils sont déjà, la plupart du temps, assez sympas, les mecs. Ils pourraient très bien dire, il me fait pas marrer, c'est un naze, il est ringard, hein, ça me choquerait pas.
Mais tu les fais rire?
Oui. Mais même si un mec me disait, moi, par exemple, ça me fait pas rire, ça me choquerait pas, il a le droit de trouver pas ça drôle et même lourd. Mais voilà, donc Olas, c'est pas son genre d'humour. Lui, je connais pas son genre d'humour. Mais si un jour, il y en a qui le connaît, il me le dit.
Olas, il a de l'humour avec lui-même, donc il ne faut pas chercher à comprendre.
Oui, non, mais après, moi, je n'en veux pas. Le mec, il fait ce qu'il veut. Enfin, personne ne t'oblige à être marrant dans la vie. Tu as envie d'être chiant, c'est ton problème.
Je suis désolé, hein, j'ai pas cassé l'ambiance, j'espère.
Si, si, complètement. Je t'annonce le programme, oui. Julien. On t'a fait venir. Il y a une interview de toi, longue, sur Virage, dans laquelle on peut découvrir ta vie de supporter de Paris. C'est pas exactement le programme qu'on a retenu ici. On s'est dit pour ce premier épisode qu'on allait se poser un peu la question de ce que c'est que ce club. Oui. Qu'est-ce qui fait que le Paris Saint-Germain est unique pour les gens qui l'aiment, pour ses supporters et puis d'une manière générale. Donc ce sera ça un petit peu le programme. Mais avant ça, Jérôme Réjas, qui est un peu notre interdit de stade à nous. Hein.
Mais oui. Mais un vrai, lui, c'est un vrai, lui.
Non, moi, on m'a demandé de partir, je suis bien élevé, je suis parti, je ne suis jamais revenu.
Ouais. Jérôme s'est attelé à la lourde tâche de préparer un petit portrait de l'invité, c'est-à-dire toi.
Ici, c'est...
Où est-ce qu'il va chercher tout ça?
Tout le monde aura reconnu, évidemment, Bourvil dans la traversée de Paris. Julien, je vais faire quelque chose de très difficile, comme vous, mais en moins bien.
Ouais, bon, ça, on verra, parce que ça, des fois, c'est... Bon, bref.
Non, c'est toujours très bien, Cazard. Julien Cazard est français. Enfin, un français, on y reviendra plus tard. Julien Cazard déboîte la majorité absolue, il ne fait pas de prisonnier. On l'aime ou on ne peut pas l'encaisser. Drôle, caustique, burné, funambule, habité, enragé, imprévisible pour les uns, raciste, homophobe, beauf, misogyne, vantard pour les autres. Mmh. Jusque-là, on est d'accord.
Absolument.
On laissera à Madame Schiappa le soin de terminer cette liste noire et de contacter le juge adéquat. Le grand Bernanos, un écrivain pour les incultes, écrivait « Les ratés ne nous rateront pas ». À l'heure de la démocratie bidon, des réseaux sociaux délateurs, des courbettes affligeantes, Cazard a relancé un certain panache à la française. Il est le maire de Cambronne, il est l'enfant du professeur Choron, il est le petit connard intouchable dans la cour de récré parce que son grand frère fait du karaté et fréquente les manouches du coin. Et dans les locaux humides et mal éclairés de la Gestapo lyonnaise, Cazard serait probablement parvenu à arracher un sourire à Klaus Barbie entre deux bains sans taille-tidouche, ni petit canard jaune insubmersible. C'est pour cela qu'on l'aime, Cazard, vraiment. C'est pour cela que les dimanches soirs, nos angoisses de terrien écrasées par une vie sociale souvent médiocre, je parle de moi surtout, sans lendemain qui chante, disparaissent le temps d'une chronique mitraillette où le pire est souvent le mieux. Certes, parfois, il se repose sur ses lauriers, Julien Cazard. On le sent au détour d'une vanne qui tombe à plat. Cazard est possiblement un fumiste, un paresseux. Je dis ça, je m'avance. Hein. Élève Cazard, vous vivez sur vos acquis. Combien de fois a-t-il dû entendre cette phrase à l'école, lui qui a été viré de différents établissements scolaires et qui a passé son bac en candidat libre? Wikipédia a raison.
Ah non, c'est ça. Voilà. C'est terrible.
Cazard n'est pas un professionnel du rire. Non, c'est un homme libre qui n'en fait qu'à sa sale tronche. Et puis, Cazard est comme un joueur du PSG. Il a lui aussi le droit de passer à côté de temps en temps. Son côté Pancrate, sans doute. Il a en lui cette attitude kamikaze. On se demande même parfois s'il n'aimerait pas être viré en direct par un ordre martial tombé dans l'oreillette de l'animateur bordelais de J+1 dont j'oublie toujours le nom. Il est le seul aujourd'hui à la télé à installer volontairement des longues secondes de silence embarrassé. On dirait qu'il jouit de ces moments quand ses collègues de plateau rient jaune et que le public respire un peu plus fort que d'habitude. Cazard est aussi un alchimiste. Il transforme parfois la merde en or. Souvenez-vous de Commissariat Central sur M6 en 2016.
Oula.
Et vous comprendrez de quoi je parle. Ouais. Bon, c'est vrai que cette série était nulle et dès que vous apparaissiez, c'était lumineux.
Ouais.
On pourrait faire ici son CV, mais on s'en branle. Ouais. Hein. Mais enfin, on va quand même le faire. Ligue d'improvisation comme Jamel, c'est vrai ça? Enfin,
pas oui, dans la même ville. C'est pas la même ligue, ouais. Mais la même époque. Oui.
Ouais, ouais. On a échappé au slam, c'est déjà ça. Ouais. Action discrète, la commission discipline sur M6, Canal+, la radio, même des bandes dessinées. Le parcours lambda de l'intermittent du spectacle, en somme.
Donnez-moi une suite au riche.
Oh non.
Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi?
C'est affreux.
Il faut qu'elle aille chez le dentiste, surtout, ça a gagné beaucoup d'argent.
Entre autres, ouais.
Julien Cazard a surtout définitivement enterré Michel Leb. Il imite mieux les Noirs que les Noirs eux-mêmes. Et évidemment, c'est les Noirs qui rient. Eh ouais. Quand il se moque sans vergogne des joueurs de couleur de notre Ligue 1 canapé, on croit entendre le grand Habib Mohamed Medoun Ondo. Non, bande d'incultes, ce n'est pas l'imam de la mosquée de Rodez ou de Guignon, mais la voix française éternelle d'Eddie Murphy. Pareil pour les Portugais, les nains, les handicapés, les enfants, malades ou pas, les homos, les roms, les gros, les maigres, les couillons et tous les autres. Cazard va là où il ne faut pas aller, toujours, il s'en branle et il a raison. Il fait le taf. Quand la France a, semble-t-il, choisi de courber les chines et de bannir le rire des débats et de ne plus être ce qu'elle a toujours été, ce pays merveilleux avec comme emblème le coq, le seul animal heureux de chanter, les deux pieds dans la merde. C'est en cela qu'il est indispensable, Cazard. Il adore Valdo, ce qui veut dire deux choses, qu'il est vieux, Ouais. Et qu'il est un supporter sérieux, un supporter du PSG. Je me serais quand même pas fiché à pondre cette chronique si Cazard avait été un adepte des Canaries ou des trafiquants de mugs rodaniens. Cazard a l'esprit du parc, ce mélange délicieux de rage et d'autocritique, de vannes et de larmes rentrées. Après la défaite catalane, il avait, pour cette entreprise de paris en ligne et qui le paye sûrement grassement, simulé l'extraction d'un cucurbitacé de son anus pour symboliser la douleur de cette déroute parisienne en Ligue des Champions. Oui, Cazard est des nôtres, des miens en tout cas. Il a choisi pour toujours. Mais Julien Cazard est-il français?
Ah.
Il est né à Paris un jour de novembre 1974. Wikipédia toujours, c'est bon.
Ah, c'est bon. Là.
Mais c'est pas suffisant parce que si sa famille est originaire de Toulouse et a survécu à Beaup, Dupraz et à ZDF. Sa maman, elle, a du sang arménien.
Ouais.
Patoukian.
Ouais, ouais.
Patoukian.
Ah ouais, c'est terrible.
Patoukian.
Pourquoi terrible ?
Je sais pas, je me dis comme ça, du coup j'ai envie de dire que c'est terrible, mais c'est vrai, c'est terrible. T'as envie de... Dès que t'entends un prénom arménien, t'as envie de te larmoyer, non ?
Tais-toi, Jean.
Non, pas du tout.
Voilà le vrai Cazard. Patoukian. Hybride presque effrayant de Jeff Panaclock et André Manoukian. Cazard donc, et là on comprend. On comprend cette violence verbale, ces blagues limites, cette volonté de flirter en permanence avec le vide. Julien Cazard vient de loin et n'a rien oublié. Oui, c'est certainement de là que lui vient cette rage sans filet, d'une contrée lointaine où les sourcils sont proéminents, les femmes se coiffent les bras, où les chanteurs sont minuscules et revanchards, et les tremblements de terre fréquents est classé au top 50. On arrête la musique horrible.
En plus,
sur Vanessa Paradis en plus. Cazard enfin a compris, et là je suis sérieux, qu'en 2018, l'humour était l'ultime posture chevaleresque, la dernière soupape avant la folie et le massacre. Celui qui sait rire de lui-même et des autres est sauvé et peut sauver le monde. Alors, entre ici, amiral Cazard, au Club des Lumières, au Théâtre des Merveilles, dans le Temple de la Passion, virage et ton virage. Ah, excusez-moi, j'allais oublier. Alors que notre cher gouvernement souhaite voter une loi contre les fake news... J'aimerais rappeler ici que non, chers ennemis marseillais, Julien Cazard n'est pas un PD. Il est en couple et papa, comme Jacques Lang, me direz-vous.
Ouais, ouais, ouais,
c'est encore une autre histoire.
Ouais, non, c'est sûr.
Bienvenue, Julien.
Merci, les gars. Écoute, je suis très, très ému. J'ai envie de me présenter aux élections.
Ben oui, ben on votera pour toi. Hein.
Franchement, quand t'entends ça, t'as envie de te présenter.
Tout est vrai.
Merde. Ah mais le pire, c'est que tout est vrai. Sauf que je suis pas homo. Mais sinon, le reste est vrai.
En même temps, c'est pas grave.
Non, c'est pas grave, franchement. Et puis, je vais te dire un truc, même si t'es pas homo, avec tout ce qu'on a appris récemment, on est en équivalent. Je pense, hein, en tant que supporter du PSG.
Ah oui, oui, ça s'est dilaté.
On est en équivalence.
Passif, alors.
Alors oui, que passif.
avec le PSG, malheureusement.
Oui, on est que passif.
Ouais. Je dirais même très passif.
Très, très, très passif.
Transition parfaite. On va essayer de définir un petit peu ce qu'il fait le Paris
déjà,
Saint-Germain.
Merci, bravo.
Ouais, bravo Jérôme pour ce super portrait. Donc le Paris Saint-Germain, c'est quoi exactement ?
Alors le Paris Saint-Germain, ce que je trouve génial, c'est que justement ce qu'il a d'unique pour moi, c'est que déjà c'est un club qui est très récent dans la galaxie des clubs qui sont très forts aujourd'hui. C'est le plus récent. Enfin, franchement, il n'y a pas plus récent que ça. Et donc il y a une histoire qu'il n'aura jamais. Par exemple, et ça, toute ta vie, tu pourras faire ce que tu veux. Il y a une histoire que tu n'as pas. Déjà, tu n'as pas une histoire ouvrière parce que tu as un club de bourgeois. C'était le gang des chemises roses. Donc si tu veux, c'est qu'à partir du moment où c'est ça crée déjà un truc particulier. C'est-à-dire que tu n'as pas connu les années 50, les années 60, les années 30, les années 20, les années 10. Donc toi, tu arrives, hey, salut les copains. Donc en fait, donc résultat, toute ta vie, tu seras le petit jeune. Tu seras le petit nouveau, le petit dernier. C'est comme quand tu es le petit dernier, tu pourras avoir 50 ans, tu seras le petit dernier. Donc ça, c'est génial. Deuxième chose, c'est le seul club de la capitale. Tu n'as pas beaucoup de pays où tu as un seul club, déjà. Et en plus, la capitale qui est une des rares dans un pays européen, un vrai gros pays européen, à être aussi centralisé. C'est-à-dire que tu as Paris, le reste du monde en France, tu vois. Tu n'as pas l'équivalence en Italie, en Angleterre, où vraiment chaque région peut être assez forte, avoir une presse nationale. Nous, on n'a pas. Et nous, toute la presse nous déteste. Et ça, c'est génial. Même la presse parisienne. Donc, tu vois, c'est surtout particulier. Tout est fait pour que ça ne marche pas. Et ben, ça tombe bien. Ça ne marche pas.
Ouais, ça ne marche pas. Et en même temps,
non, mais si, ça...
pour un enfant, le palmarès, quand on y pense...
Non, mais c'est ouf. C'est ça qui est génial. C'est qu'on est le club de losers avec le plus gros palmarès. Donc, c'est ça, c'est quand même fort.
Moi, cette histoire de club de losers, bon, il nous a vrillé complètement le conducteur, hein, mais c'est parfait.
Excusez-moi, parce que tu m'as demandé
c'est
quoi ?
C'est tous les points que tu as dit, c'est exactement les points
après,
dont on voulait parler. C'est ça le talent, comme tu dis. Cette histoire de club de losers, moi, quand je regarde Paris aujourd'hui, je me dis, en fait, il manque des joueurs de caractère, il manque un coach, il manque des choses pour que ça marche. Mais en fait, en parlant avec vous, j'ai l'impression que c'est presque inscrit dans l'ADN du club d'arriver à un moment à franchir une marche et paf, quoi, tu la rates la marche. En fait, surtout au niveau européen, parce que des championnats, ils en ont gagné. Mais...
Non, mais c'est ça qui fait. Pour moi, loser, c'est parce que si t'es nul, t'es pas un loser. Un loser, c'est pas un nul. Un loser, c'est un mec, il est au top et au moment où il doit. On se dit, bah, là, c'est bon, et eh ben là, il foire. C'est ça, un loser. C'est comme le Stade Rennais, qui, je pense, est très au-dessus de nous. Le Stade Rennais, ils font finale contre Guingamp, ils n'ont pas gagné depuis 40 ans un titre, ils perdent contre Guingamp. Ah, deux ans après, refinale, ils disent, bon, cette fois-ci, on va pas se faire baiser. Eh ben si! Ils reperdent. Et après, ils re-reperdent. C'est que ça, c'est vraiment des losers. C'est comme Leverkusen qui, en 2002, ils perdent la finale de la Coupe d'Allemagne, ils perdent le championnat la dernière journée, la finale de la Ligue des Champions. Je rajoute Michel Ballack qui, en plus, a perdu la finale de la Coupe du Monde en étant de Leverkusen. Donc ça, pour moi, c'est la vraie lose. Et nous, c'est ça notre force. Tu vois, c'est que la seule coupe qu'on a gagnée, elle n'existe plus, la Coupe d'Europe. Ça, tu vois, c'est ça incroyable. La vraie lose. Il y a une Coupe d'Europe qu'on a gagnée, elle n'existe plus.
Et elle est supprimée, je crois, l'année qui suit pratiquement. Le titre.
Ouais, pratiquement. Ouais. C'est pour dire, c'est bon, ils l'ont gagnée, on arrête.
Mais pour moi, c'est peut-être une bonne chose qu'elle n'existe plus, cette coupe. Hein. De toute façon, on sera le seul club français.
À jamais les premiers, je veux dire.
Ah oui, allez gagner.
À jamais les derniers.
À jamais les premiers, elle
a gagné. On peut dire à jamais les derniers. Ouais, on pourrait avoir ça, nous, comme slogan.
Il y a cette histoire de club loser. Il y a un autre truc que tu as dit qui est frappant, c'est le seul club de la capitale dans un pays aussi centralisé, donc le club que tout le monde aime détester en fait.
Ouais.
Ça forge fou. L'identité.
Oui, parce que je sais pas. Enfin, moi, ce qui est génial déjà, c'est qu'on n'est pas un vrai pays de foot au départ, et que Paris, c'est pas une ville de foot. Il y a beaucoup d'amoureux du foot, mais c'est pas une ville de foot. C'est-à-dire que, le jour du titre, t'as personne sur les Champs-Élysées. Enfin, si, mais c'est des Chinois. Ils achètent des sacs. Donc, est-ce que ça compte? Je suis pas sûr. Donc voilà. Donc moi, je pense que c'est ça aussi qui est très bizarre, c'est que c'est une ville qui a tellement de pluralisme culturel, de choses qui fait que le foot, c'est un truc parmi d'autres. Mais ça, tu le trouves pas ailleurs. Genre, tu vas à Madrid, tu vas à Rome, c'est encore particulier parce qu'ils sont bien dans la loose aussi, mais ils ont quand même deux équipes, ils sont à bloc, il y a une presse qui est vraiment derrière eux, tu vois.
Alors ça, c'est un truc aussi, moi ça me fait penser à cette une de l'équipe la veille du retour Barcelone. C'était gonflé à bloc.
Ouais.
J'ai pissé dessus
avec la tête de Messi en grand, je crois. Genre, ils vont le faire, les gars, allez, on y croit.
C'est dingue.
Ouais. Bah ouais, c'est dingue, et je pense qu'en Europe...
Le seul quotidien sportif français.
Ouais, mais parce que le problème, c'est que c'est pas aux Parisiens qui vendent, c'est aux autres, surtout. Ils vendent notamment aux Parisiens, mais beaucoup aux gens qui aiment pas Paris. Et ça vend plus que les gens qui aiment Paris. Donc quelque part, il y a une logique commerciale. Donc c'est pas un fanzine, hein. C'est un anti-fanzine.
Mais de toute façon, nous, on est vraiment le souffre-douleur utile aussi, le PSG. C'est-à-dire que je pense que nous, on peut exister tout seul, sans personne. On se tape entre nous, on s'insulte entre nous.
Oui, c'est bien d'aller supporter qui se tape tout seul, pas besoin des autres.
Je pense qu'en 2008, quand on manque de descendre, moi, je parlais avec pas mal de potes qui étaient supporters de Lens, enfin, toutes ces équipes qui n'existent plus. Et ils m'avouaient qu'ils allaient être déprimés si Paris éventuellement descendait. C'est-à-dire que sans Paris, la Ligue 1, c'était pour eux presque fini, quoi. On est le truc à taper chaque année.
Ah oui, c'est vrai, c'est ça, c'est qu'il y a... Mais moi, je trouve ça très bien, je veux dire, on ne va pas se plaindre, puisque justement, c'est le particularisme de cette ville, c'est d'être un petit peu hautain, un petit peu, voilà, tout ce qui est en dehors du périph', c'est bizarre. Donc voilà, on joue avec ça, c'est drôle, mais après, les contre-coups, c'est que voilà... Après, je pense que ce qui doit choquer, notamment déjà, des gens comme Neymar ou qui viennent des gros clubs, c'est qu'ils hallucinent à Paris dans un premier temps, parce qu'ils disent, mais moi, quand je suis à Barcelone, je me fais déglinguer par une moitié de la presse, mais j'ai toute une presse qui est pro... donc en fait, ça équilibre. Le mec, il arrive, il se fait dézinguer. C'est-à-dire, pendant trois semaines, on fait c'est génial, Neymar, il jongle. Et puis bon, ça y est, la fête est finie. Et le mec, il se fait déboîter. Il est deuxième buteur, meilleur passeur, il dribble tout le monde. Ouais, c'est qui ce connard ? Il dribble tout seul. Le mec, il se dit, mais où je suis tombé, quoi ? Parce que oui, il faut s'habituer à ce qu'à Paris, eh ben, les médias ne te soutiendront pas. C'est pas l'énergie du truc.
Ou alors Daniel Bravo à la fin du match retour contre le Real de Madrid au Parc qui dit ah quand même Adrien Rabiot grand match. Voilà. Donc soit on a des incompétents qui disent n'importe quoi, soit on a des gens qui nous haïssent.
Oui, mais tu vois, le problème, c'est comme c'est Daniel Bravo, je ne me permettrai pas de c'est critiquer. Vrai. Parce que c'est la famille.
Même si plus le temps passe, plus il commente, moins on a l'impression qu'il a joué à Paris et qu'il nous a aimés. Hein.
Moi, j'ai plus ce sentiment avec Joël Batz.
Ah bah oui. Ah ouais.
Joël Batz
est devenu lyonnais à bloc.
Ah non, mais moi, je me rappelle d'un truc qui m'a vachement déçu. Je l'avais trouvé hyper hargneux dans un Lyon PSG. Il était sur le banc de Lyon et ça m'avait choqué. Il avait une haine, il a été rageux plus que les autres. Je dis, mais merde, enfin, je sais pas, c'était quand même un bon souvenir. Moi, comme un con, je me rappelle avoir applaudi sur, pendant son jubilé. Il y avait Purple Rain, enfin, son dernier match, il y avait Purple Rain avec un feu d'artifice et tout. On était tous au parc à applaudir comme des cons. Pour voir ça derrière, ça fait mal.
Sur le club qu'on aime détester, il y a un truc quand même qui est en train de se passer justement avec cette équipe de Galactique, un peu là, les Neymar, etc. C'est que, je sais pas si vous avez vu ce sondage récent, le Paris Saint-Germain devient le club le plus aimé en France. Est-ce que c'est possible ça ?
Oui, parce que c'est beaucoup de jeunes, je pense.
Ouais. Mais du coup, ça change tout, là, ça marche plus.
Comme il est possible de voir des maillots Zlatan et maintenant des maillots Neymar sur la Canebière à Marseille, alors que je te jure, jusqu'à il y a encore, là, juste avant l'arrivée des Qatar, tu mettais un maillot de Paris sur la Canebière. Ouais. Si tu faisais pas du free fight, tu finissais pas entier la journée.
Moi, j'ai une petite question à te poser, Julien. Est-ce que tu suis un peu le basket ?
Alors, j'ai beaucoup suivi et ces derniers temps, un peu moins.
Ok. NBA ou pro ?
Moi, le basket, tu m'as dit, donc NBA.
Ok.
Merci.
On est sur la même longueur d'onde. Et je voulais avoir ton avis parce que moi, le PSG me fait énormément penser aux Knicks de New York.
D'accord. Mais ceux de maintenant ?
On va dire Barclay. Non. Ceux des, on va dire, des 15 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné la dernière belle époque des Knicks.
C'est romantique, mais ça gagne jamais. Hein. C'est ça que tu veux dire ?
C'était. En fait. Déjà, il y a plusieurs choses.
C'est quoi ? C'est il y a 15 ans, 20 ans ?
Ah non, c'était en 70.
Ah ouais, c'est 73. Ça. Même avec Barclay.
C'était avec Phil Jackson. Barclay n'a pas joué au Knicks.
Non, c'est pas Barclay.
Barclay, il a joué au Suns. Non, t'as Ewing.
Pat Ewing, le grand avec la grosse moustache.
Mais il y a un truc avec New York. Il y a deux trucs qui me font penser à Paris. C'est tous les anciens joueurs de New York, à chaque fois qu'ils vont au Madison, ils font le match de leur vie.
Ouais.
À New York, ils étaient nuls, enfin nuls, moyens ou nuls. Mais dès qu'ils arrivent au Madison, ils font le match de leur vie. À Paris, tu as souvent eu ça. Bah oui. Tu as souvent eu des gars pour qui ça n'a pas fonctionné à Paris.
Et quand ils reviennent,
ils reviennent, ils marquent.
Oui, ou pas, ou ça fonctionnait à Paris, mais quoi qu'il arrive, quand ils reviennent contre le Paris, passe décisive.
C'est marrant, ça, c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est un peu retombé.
Oui, c'est fini ça.
Non, mais moi je suis pas trop d'accord avec cet exemple parce que pour moi, les Knicks, déjà, une grande différence, c'est qu'ils ont déjà touché au Graal.
Bah, nous aussi.
Lequel ?
Coupe de la Ligue.
Ah, d'accord.
Combien ? Rappelle-moi le chiffre, s'il te plaît.
8, je crois, non ?
Coupe de France ?
De 10, 11.
11,
11. On a rattrapé.
Moi, je pense que les supporters sérieux, ils privilégient le championnat à la Ligue des Champions. Et on en a quand même remporté quelques-uns aussi.
Oui, mais le souci, c'est que maintenant, pourquoi Paris commence à devenir un club beaucoup aimé ? C'est que tous ces gens-là espèrent qu'ils gagnent la Ligue des Champions, quoi. Et que, bon, c'est pas seulement aimé en France, c'est que Paris est très aimé aussi à l'étranger. Et il faut pas oublier que Paris. Il y a un mot magique, c'est Paris, quoi. Déjà, on voit dans le nouveau logo du PSG, son machin, Saint-Germain, il est vraiment tout petit maintenant. C'est Paris qui est mis en avant. Et de plus en plus, je pense que c'est ce que retiennent tous les gens du monde entier. C'est-à-dire, c'est le club à Paris.
Mais moi-même, ce que tu dis là, moi, ça me fait penser aux Knicks. Les Knicks, c'est New York. Enfin, non, mais là, il y a même le NY, moi, quand j'étais gamin, le NY, les casquettes bleu marine avec le NY en blanc, c'est une équipe de baseball. J'étais persuadé que c'était les Knicks. Parce que c'était New York.
Les Yankees.
Non, mais après, tu sais, par rapport à l'histoire de ce que tu disais sur le championnat, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que justement, la particularité de Paris, c'est que c'est une équipe qui a été créée avec des paillettes, un peu avec de la flamme. Et les stars, c'est des mecs qui nous ont fait vibrer parce qu'aussi en Coupe d'Europe, en fait, j'ai l'impression que Paris, c'est presque trop grand pour la France. C'est-à-dire que ça ne peut pas se permettre d'être que champion de France.
C'est un truc qu'avait dit Leonardo, il s'était fait tailler pour avoir dit ça. On a une équipe taillée pour l'Europe.
Ouais, mais ce que je veux dire, lui, il pensait. Oui, c'était vrai, mais il ne faut jamais dire ça après une défaite, à l'air d'un con. Il faut garder ces phrases-là, même si elles sont vraies, pour après, à un moment donné, où tu es bien. Pas quand tu as perdu contre Reims. Tu as perdu contre Reims, ça fait un peu Clavier qui dit c'est toujours dur de jouer contre un mec qui est plus mauvais, tu sais, au ping-pong. Bon, ça fait toujours bizarre. C'est quand même plus dur de jouer contre un mec qui est plus fort. Et donc, voilà. Donc, moi, je trouve que justement, Paris, par rapport à l'histoire de ce club, qui est très paillette, et à l'histoire de la ville, en fait, justement, tu te dois d'être une équipe qui. UEFA, ce que tu veux, tu flambes en Europe. Et justement, c'est l'histoire. PSG Real, ça fait plus bander les gens que le PSG Toulouse de 94 avec le titre au bout.
Mais bizarrement, je pense qu'on a plus de matchs référence en Europe avec l'ancien Paris qu'avec le Paris actuel, à part le match de Chelsea.
C'est évident.
Et le match allé contre Barça, Barcelone, quand même.
Match allé de Barça, ouais.
Mais c'est annulé, malheureusement, c'est annulé.
Ouais, moi je suis d'accord, ça.
C'est annulé. C'est en fait
cette émotion là.
Tu peux plus la revivre avec. Tu peux pas. En fait, tu ne peux pas revoir ce match en prendre du plaisir, puisque
parce que tu connais
ça te renvoie à l'autre. En fait, c'est comme si tu avais vu une mi-temps géniale et c'est comme si le Montpellier. Et si putain, je vais revoir la première mi-temps de Montpellier-Marseille. Bah non.
je suis à moitié d'accord aussi sur la problématique Ligue 1, parce que au final, à Paris, quand tu te sens parisien, que tu as grandi ici, etc., tu aimes tout ce qui brille, tu aimes les plus belles choses, les meilleures choses, et on t'habitue à goûter à ça. La Ligue 1, c'est plaisant, c'est agréable, c'est un long combat, etc. Mais cette putain de coupe aux grandes oreilles, il n'y a que ça qui nous calmera, en fait.
Ouais, enfin, il suffit pas de la mettre en tifo géante avant les matchs pour la gagner.
Ça, on est bien d'accord.
Ça, c'est un
truc
qu'on
aurait jamais... Très bonne vanne des Marseillais, c'était qu'on n'avait pas la coupe aux grandes oreilles, mais on avait Guedes. Ils avaient mis la tête de Guedes, qui était l'équivalent.
Mais John, tu as raison, mais moi, je viens de province. Moi, je fais partie de ces supporters ultimes de Paris, mais de province.
Et on t'accepte quand même, comme tu vois, on a une vraie ouverture.
D'où la phrase que j'avais mise dans mon livre de Sacha Guitry, être parisien, ce n'est pas être né à Paris, mais y renaître. Et il y a quand même pas mal de banlieusards et de provinciaux dans les tribunes
de Paris. Et c'est aussi être né, ça ne dérange pas.
Oui, bien sûr. Vite fait. C'est vrai.
Qui replace le truc discrètement.
À propos de ces stars, des joueurs qui sont pas nés à Paris pour le coup, mais toutes ces stars qui viennent, il y a une sorte de point commun aussi, c'est qu'on a vu passer... C'est peut-être le club en France où il y a eu le plus de paillettes, on le disait, de stars internationales.
Utilise un autre mot, s'il te plaît. De paillettes, ça va pas. Paillettes.
On peut plus dire paillettes.
Non, tu peux pas.
C'est fini. C'est depuis deux ans, on peut plus.
Il n'a pas compris.
C'est Dimitri ?
Oui. Oh non, pas Manu.
La grosse, pardon. Excuse-nous.
De Strass, Sabri, ces joueurs. Et il y a un truc aussi, c'est les joueurs qui sont venus et qui ont déçu. Et qui se sont effondrés.
Attendez, pas mal.
La vie parisienne. Il y a un truc, une alchimie. En préparant, on m'avait dit, c'est comme ça, c'est écrit, quoi. C'est l'ADN malédiction. Du club. Une malédiction. Les joueurs, ils arrivent, c'est des génies. Et les mix.
C'est constitutif.
Les...
C'est vrai, on devrait faire un jeu.
La grosse ville.
Non, mais t'as des boîtes de nuit à Barcelone, à Madrid.
Ah oui, en appartement.
Non, les gars, quand je dis la grosse ville, c'est un ensemble de choses. Pourquoi, quand un joueur vient à Paris, je dis n'importe quoi, il va, je sais pas, à Montpellier, il prend 50, il veut venir à Paris, il prend 150. Il demande 150.
Si tu peux prendre 150 au lieu de 50, tu les prends
ouais,
pas.
Mais
moi, je les prends.
Est-ce que ça joue pas aussi ?
Non. Moi, je pense que c'est une sorte de... C'est ce que nous expliquait Samy Traoré quand on l'a rencontré pour Virage. Il y a une vraie pression qui s'installe, qui n'est pas forcément liée qu'aux tribunes. Et t'en as qui survivent à ça, et t'en as qui craquent.
Mais d'un autre côté, regarde ce que disait Julien. On n'est pas forcément dans une ville. Moi, je trouve pas que Paris soit une ville de foot.
Ouais, mais alors attention, tu prends les 50 Montpellierains, les 50K ou ce que tu veux. À Paris, t'as aussi tout le marketing, t'as la com, t'as le fait de faire des pubs, etc. C'est pas à Montpellier que tu vas faire de la pub.
Et t'as les médias.
T'as les médias, t'as le
journal. Jean, t'es pas le même.
Ouais, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Paris, on parle de la France, de la Ligue 1, mais il faut pas oublier que pour les gens, la plupart des gens en dehors de la France, Paris, c'est énormissime.
Bonsoir, RFI. Il fait quel temps en Ouagadougou, Jean ?
Écoutez, j'ai pas encore.
Un taux d'humidité assez élevé. Hein.
Ouais, mais c'est pas encore l'heure de la météo encore.
Toi, t'es international à mort.
À mort.
Paris fait rêver, c'est ça que tu veux dire ?
Bah oui, Paris fait rêver, qui veut dire que... Moi, je me rappelle quand Diego Maradona jouait encore au football, quand il est parti de Naples, on lui avait demandé où est-ce qu'il aimerait, une interview en Argentine, où est-ce qu'il aimerait jouer. Il avait simplement dit, s'il y avait une équipe à Paris, ben, je jouerais à Paris.
Oh la claque. Waouh, bam
même, Diego, il a failli venir, dis donc.
Je comprends pas, s'il y avait une équipe à Paris, il a arrêté de jouer en quelle année, notre ami Diego ?
Non, mais quand il partait de Naples, c'est la Serie A, des choses comme ça. Quoi, voilà.
Il y avait une équipe en 91.
Qui veut dire que tous les joueurs connaissent Paris. Ils connaissent tout ce qu'on peut faire à Paris. Et surtout, leurs femmes connaissent Paris. Leurs petits amis connaissent Paris. Tout le monde connaît Paris. Et maintenant qu'il y a un club à Paris, quand j'entends, non, personne ne veut venir à Paris, bah, je ne suis pas d'accord.
Parce que déjà, les mecs ont une femme.
Ils
déjà,
veulent venir, évidemment.
C'est souvent notre meilleur allié quand les mecs disent ils nous font chier avec leurs gonzesses. J'ai dit non, mec, hein, s'ils n'avaient pas leur meuf, on en aurait moins.
Hein. Voilà. Ils viennent à Paris. Et Paris, pour moi, c'est le. Comme disait Julien tout à l'heure, c'est un club jeune. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est un club là, qui s'est mis en route pour gagner la Ligue des Champions, ce qu'il ne faut pas oublier. On a reparlé de Leonardo tout à l'heure, quand il a dit « oui, il ne faut pas dire ça après une défaite », mais il n'y a qu'en France qu'on entend ça. Je suis désolé, quand t'as n'importe quel grand club.
Oui, mais on est en France.
Mais
la France, il y a des spécificités françaises.
Non, mais
oui,
je te jure que je te mets au défi de trouver Florentino Pérez, après une défaite contre Murcie, venir faire un raisonnement. Il ne va jamais faire ça.
C'est vrai.
Ah, je suis
jamais de la vie. Justement, je trouve que d'habitude, nous, à la différence de certains clubs du Rhône, que je ne citerai pas, on n'a pas tendance à chouiner quand on perd, quand on fait une performance contre un petit club. Justement parce que, voilà, seigneur, on dit, bravo, ils ont assuré.
En fait, c'est ce que Leonardo a dit de plus français, ce truc-là.
Quand il a bousculé l'arbitre, c'était pas mal aussi.
Non, mais c'était dans l'ambiance Ligue 1. Alors que lui, détonnait. Et là, quand il dit ça, il est dans la chouine, l'ambiance Ligue 1.
Leonardo est très français, de toute façon. très très français.
Moi c'est vrai que moi je trouve qu'il manque un peu.
Mais bien sûr.
Moi ce que j'ai aimé chez Leonardo, c'est que je me rappelle avoir vu dire à Zlatan, tu retournes sur le terrain parce qu'il n'avait pas salué les mecs.
Il n'y avait que lui qui pouvait lui dire ça.
Tu vois, ça, c'est
ça, c'est la grosse erreur, c'est l'erreur majeure des Qataris, je pense.
Le début.
Ancelotti, moi aussi, je regarde.
Non, mais le début de l'ère Qataris, Ancelotti, Leonardo, il y avait même Makelele qui était encore là pour faire
le
lien avec les joueurs. Ce trio-là, c'était quand même parti sur des rails extraordinaires.
Moi, personnellement, c'est plus Leonardo qui me manque qu'Ancelotti.
Ouais.
Moi, Ancelotti, je vais te dire un truc, je pense qu'Ancelotti, il a une vraie force, c'est quand il a un groupe avec que des tueurs. Il va les mettre dans les meilleures dispositions.
Comme Zidane.
Sauf que Zidane, moi, pour l'instant, je lui vois aussi des choses différentes que je voyais pas, que je vois pas chez Ancelotti. Tu vois, par exemple, Ancelotti, c'est un mec, il ira jamais contre les vedettes. C'est-à-dire que si la vedette, elle est pas bien, il mettra pas un mec meilleur au même poste, c'est mettra la vedette. Moi, j'oublie pas que Barcelone.
On enregistre cette émission en 84.
C'est vrai qu'il y a un téléphone. Je ne sais pas. Peut-être pour nous faire comprendre qu'on est des vieux cons. Mais à un moment donné, Ancelotti, il aurait dû mettre Marco Verratti sur un match. Il a mis Beckham contre Barcelone parce qu'il a mis le truc qui brille. Parce qu'il a toujours été comme ça, Ancelotti. Donc.
Alors, tu verrais qui alors vu qu'on en est là,
franchement,
en tant qu'entraîneur, si Leonardo revenait, par exemple.
Moi, je pense que un mec qui peut les driver, parce que après, je pense que tactiquement, ces mecs-là, ils sont très forts. Moi, je pense qu'il faut un mec dont ils se disent tous, ok, toi, d'accord. C'est-à-dire un mec qui a fait quelque chose de Ligue des Champions. Ouais. Malheureusement pour Emery,
il en a qu'un.
Non, mais t'as Guardiola. Mais je te dis n'importe quoi. Mais moi, aujourd'hui, Zidane, il vient, les mecs, ils le respectent. Le coach Onero, Simeone, lui, pareil, respecté. Même Allegri, c'est des mecs qui au moins.
Compté.
Ou Conte, il a un peu moins prouvé en Ligue des Champions, mais ce sont des mecs qui se sont fait respecter, qui ont aussi montré à des stars qu'ils étaient les patrons. Allegri, il a mis Barzali en tribune, il a envoyé Bonucci au Milan AC, il en a rien à foutre. Donc ces mecs-là.
Mourinho.
Mourinho, j'ai l'impression qu'il est
un peu déclin.
Ouais. Mais tu vois, ce genre de mec. Après, en tant que qualité d'entraîneur, c'est pas un mauvais entraîneur, Emery, mais c'est pas le même bon métier.
Au moment où on enregistre, là, la rumeur est insistante sur Thomas Tuchel. On n'est pas encore 100% sûr.
Comment tu le dis ? C'est comme ça que ça se prononce ?
Tuchel,
Thomas Tuchel,
je pense. Ouais. Tuchel.
Et on dit commandant Tour.
Commandant Tuchel.
Commandant Tuchel.
Ça colle pas, ça coche pas vraiment les cases qu'on décrit là. Quoi.
Alors après, le seul truc que je vois de différent par rapport à Emery, parce que pour moi, qu'il n'ait pas gagné la Coupe de la Ligue, l'Europa League, qui est la Coupe de la Ligue de l'Europe. Non, mais l'Europa League, voilà, c'est un lapsus. Mais pour les joueurs qui sont en Ligue des Champions, c'est pareil. Avoir gagné l'Europa League ukrainien, c'est pareil, ils s'en foutent. Ouais, ils savent très bien qu'eux, s'ils la jouent, entre guillemets, ils la gagnent. Tu vois, regarde l'Atlético Madrid, hop, ils vont tout droit. Voilà. Le PSG, c'est la Ligue 2. Donc, si tu veux, à un moment donné, tu peux avoir 5 titres de Ligue 2, tu arrives en Ligue 1, c'est bien, tu as 5 titres de Ligue 2. Donc, si tu veux, mais Tuchel, le seul truc qu'il a en plus, et ça va paraître con, c'est que culturellement, lui, il est allemand.
Yes.
Et le fait d'être allemand, il ne fait aucun complexe. C'est-à-dire qu'un Espagnol qui vit en France, il ne faut pas croire, à part si c'est Guardiola, il arrive avec un... C'est con, mais les Espagnols, ils ont un complexe, déjà, au départ, au niveau du pays, par rapport à la France. La France, c'est très impressionnant pour les Espagnols, les Portugais, tout ça. Donc, ce que n'ont pas les Italiens, les Allemands, par exemple. Mais c'est vrai, ça, c'est historique. Et en plus, il vient pas d'un grand club et tout. L'Allemand, déjà, historiquement, par rapport à ça, au fait qu'ils ont...
Il a un autre complexe, en fait.
Il a plutôt supériorité.
Il a un complexe de
supériorité. Oui, mais c'est vrai, mais je te jure, c'est culturel dans le foot. C'est-à-dire que les Allemands, ils ont mis des branlées au Brésil. Ils sont champions du monde, je sais pas combien de fois.
Ils gagnent toutes les séances de tir au but.
Ils se sentent assez vite bien chez eux.
L'Allemand s'intègre très très vite.
Oui, ça y est, il va nous parler de l'espace vital. Moi, je vais pas jusque-là. Moi, je te dis juste que culturellement, au niveau football, l'Allemand, il ne fait pas de complexe d'infériorité quand il vient en France.
Bah, il y avait la phrase célèbre que je ne veux pas ressortir parce que tout le monde la connaît, mais c'est vrai que les Allemands, historiquement, ils sont.
Tu veux si parler de Heineken, par exemple. Tu l'as pas pris dans le bon sens, la phrase.
Non, mais tu sais, la phrase.
Heineken. Le foot, ça se joue à 11 contre 11, c'est les Allemands.
C'est vrai. Je ne sais pas si nous sommes tous quarantenaires ou plus autour de cette table, peut-être pas tous.
Non.
Moi aussi.
Mais les Allemands, on a grandi avec des Allemands quasiment invincibles.
Les Allemands prennent leurs responsabilités sur un terrain de foot. Un très jeune joueur allemand n'hésite pas à tirer de 30 mètres au but. Mais Draxler n'est pas allemand.
Il est allemand.
Non, mais tu vois, par exemple, Thomas Tuchel, il va pas avoir de complexe par rapport aux Brésiliens. Parce que lui, il se rappelle avoir vu un 7-1, si tu veux.
Commandant Tuchel.
Donc, si tu veux, voilà, c'est-à-dire que c'est le seul truc. Et le côté un peu, justement, il a une autre personnalité que Emery. C'est-à-dire que Emery,
il en a une,
dès qu'il est arrivé. Non, je sais pas s'il en a pas une, Emery.
Je pense qu'Emery,
mais il est arrivé à Paris, il était tellement content d'être là.
Il
s'excusait d'être un aboutissant. Et ça, c'est la pire des choses à Paris. Il faut un mec, c'est pas une question de ce qu'il a gagné, c'est une question de le mec qui arrive, il a des exigences et il dit, moi je viens, j'ai une mission, mais je suis pas là, oh là là, j'ai gagné au loto. Tu vois, et ben moi, pour moi, Emery, il est arrivé, il avait gagné au loto. Comme je pense malheureusement au Pochettino, avec tout l'amour que j'ai pour lui, s'il arrive
bien
à Paris, il a gagné au loto. Tourelle, t'as l'impression, il a dit non au Bayern.
Oui.
C'est un mec qui a une tête de con. Et moi, je pense que, alors c'est à double tranchant, ça peut aussi merder.
Mais, ça peut
mais
merder,
il a une tête de con, ça veut dire que lui, il vient pas en disant, il va dire, moi je veux bien venir, mais il faudra me laisser des pouvoirs. C'est le seul truc que je vois de positif.
Tu veux dire que façon... Thomas Meunier, c'est le. On va dire qu'Emery, c'est le Thomas Meunier du... des entraîneurs qui est venu au PSG. Quoi.
Pourquoi qu'est-ce que t'as contre Thomas Meunier ?
Thomas Meunier qui veut partir.
Bah, Thomas Meunier, quand il est arrivé, il était un petit peu aussi comme s'il avait gagné au loto. Quoi.
Donc, oui, mais un joueur, c'est moins grave.
Il avait gagné au loto.
Un joueur, c'est moins grave.
C'est pas le patron.
Là, c'est le patron.
Il avait gagné sa place.
Voilà. C'est-à-dire qu'un mec qui vient, il est content. On le fait jouer, on le fait pas jouer. C'est un pion. Le patron, tu peux pas avoir un patron qui.
Ou en tout cas, faire semblant d'être le patron, même si dans sa tête, il est content d'être là et qu'il hallucine un peu. Mais c'est vrai qu'Emery.
Ouais. Je sais pas, l'un de vous était au Camp Nou l'an dernier ?
Non, j'y suis pas.
Bon, voilà. Bah, quand tu étais au Camp Nou, ce que tu voyais pas à la télé parce que les images étaient aisées sur le protocole et tout, bah, moi je peux te dire qu'il était liquide en entrant. Ouais, ouais. Il était liquide. Ouais, c'est le mec, il avait gagné 4-0 à l'aller.
Pas de confiance.
Peut-être que Tourelle,
aucun calme.
Jonathan ?
Non, la seule question sur Tourelle, et je pense qu'on l'a tous autour de la table aussi, c'est gestion des stars. Est-ce que ce mec qui n'a jamais entraîné des grands joueurs.
Moi, la question que je me pose, c'est qu'au-dessus de lui, en fait, c'est quelle autorité on lui confère, en fait ? Parce que même un mec comme Emery, s'il y avait eu une présidence, enfin, une institution forte, pour employer les termes un peu à la mode, qui l'assoit vraiment sur le trône, il aurait peut-être mieux fait, mais il n'a pas vraiment été soutenu. Hein.
Mais ça, c'est la vraie question, c'est savoir les pouvoirs qu'on lui donne en arrivant.
Fred. Moi, il y a plusieurs trucs sur l'arrivée de Tourelle. Un truc très con. Mais il vient après Emery.
J'espère que c'est lui. Hein, parce que...
Ça paraît débile, mais fait, ouais. Bon, on refait le monde. Peut-être que ce sera un autre, mais a priori, ce sera lui. Il vient déjà après Emery. Quand on regarde l'histoire de ce mec, on voit qu'à chaque fois, il a claqué la porte parce qu'il y avait quelque chose qui ne lui convenait pas. Moi, il y a quelque chose dans son portrait qui m'a choqué. C'est parti en live à Dortmund parce qu'il s'est embrouillé avec le président. Parce qu'après l'histoire de l'attentat, il a dit au président, moi, je protège mes joueurs. Il ne faut pas qu'ils jouent. Le président lui a imposé de jouer et là il a dit fuck.
Moi je trouve que
c'est une bonne chose.
Ouais, mais moins cher. Bien
c'était
sûr.
Incroyable
c'est
ce que... qu'il joue le lendemain.
Mais je suis d'accord, mais je veux dire, il vient c'était après Emery. Ça a l'air d'être un énorme travailleur. Le mec s'est bien reposé. Forcément, il a regardé pourquoi Emery ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Et moi, le sentiment que j'ai avec ce mec-là, c'est ça passe ou ça casse. Mais quoi qu'il arrive, ce sera un circuit court. Je vois pas Tourelle s'engluer. Dans une situation à la Emery pendant
Emery,
un an et demi.
Par exemple, je
ressens pas
là
ça.
Là où je te rejoins, c'est que par exemple, moi pour moi, là où Emery, il a perdu le combat, c'est qu'après la remontada, je me dis ce mec, et comment il fait ? En fait, soit tu fais un choc avec lui, tu dis ok, on s'est pris une branlée, je suis pas content de moi, mais il y a des mecs qui vont dégager. Le mec, il reste, il garde tout le monde, il baisse les yeux.
Parce qu'il se sent lui-même le premier responsable.
Voilà,
en fait.
Et sauf qu'en fait, c'est mort. C'est-à-dire que soit tu te casses, soit tu dis ok, on a merdé, mais tant pis, il y a des mecs, des stars qui vont dégager.
Mais le statu quo comme ça, ça pouvait pas marcher.
Il était mort. Ah. Pour moi, le lendemain de la remontada, je considérais qu'il pouvait plus revenir.
Je suis d'accord.
Le truc, c'est que je pense que Tourelle prendra toujours ses responsabilités. Tourelle, il prendra toujours ses responsabilités.
Se suicider avec son chien et sa femme.
Ah bah c'est clair.
Sans son cœur.
Il n'y a pas eu une seule fois de jump de balancer. Je suis très déçu.
Parlons avec tout ce qu'on dit.
Pas de jump. Au secours, pas de jump.
Avec toutes vos conneries, vous allez réussir à me faire virer de Europe 1 et Canal. Ça va ressortir en grand. Les Allemands.
Mais non.
Le sujet qu'on évoque là. Il est intéressant, mais il rejoint peut-être celui qu'on évoquait juste avant, à savoir Emery. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo sur YouTube où on le voit en train de parler en espagnol, dans sa langue natale. Et
c'est pas du tout
c'est
la même
chose. Même homme. C'est-à-dire que là, je le voyais, il hurlait en conférence de presse sur le terrain. C'était un bonhomme. Il arrive à Paris. Il y avait ce super projet initial de faire voter les fans sur le 11, etc. Il y avait une émulation qui était incroyablement captivante. Et il est parti en vrille. C'est comme beaucoup de joueurs sont partis en vrille.
Mais il est mort à Barcelone. Hein,
Il est mort à Barcelone.
J'ai un pote, Grégory, il a une théorie.
Quand il avait 4-0,
Pense qu'Emery fait exprès de mal parler français de plus en plus. Plus le temps passe, plus il parle mal français. Parce que je me souviens, quand il est arrivé, je me suis dit, putain, le mec, il a bossé.
Il avait fait des progrès rapidement.
Et plus ça va, plus il parle mal.
Il fait comme la grand-mère de ma femme.
Ah, voilà.
Elle entend quand elle veut.
Ouais, y a peut-être
elle est normande.
Je pense qu'il est plus papier, motivé.
Penser à mon fils. Mon fils, quand il fait une connerie, il fait comme s'il parlait pas.
Ouais. En tout cas, la vraie question, c'est peu importe l'entraîneur, on en revient à entraîneur-manager. C'est savoir quel pouvoir le PSG va laisser à l'entraîneur, peu importe qui il est.
Alors, y a un truc, justement, là aussi, on raccroche avec l'histoire. Cette histoire de club pas bien organisé, c'est un peu branlant. Je disais tout à l'heure, ça, l'attelage Ancelotti, Leonardo, Makelele, ça me paraissait vachement tenir la route. Mais en fait, dans l'histoire, cette histoire d'un club, par exemple, les fuites dans les vestiaires, ça a toujours été le cas, en fait. L'histoire du club, même dans les grandes heures, ça...
Mais est-ce
ça...
que c'est spécifique au PSG, ça ? Est-ce qu'il n'y a pas des clubs, pareil, qui avancent un peu en boitant et qui arrivent de temps en temps à péter un score ou à...
Non, mais nous,
pas les grands clubs.
Nous en fait, il n'y a pas de conséquences.
Mais nous, on n'est pas un grand club.
Non, mais quand, non, ça c'est sûr. Mais quand il y a une...
En France, ça arrive partout.
Quand il y a une fuite... nous, ce qu'on a l'impression, c'est que quand il y a une connerie, ça peut arriver ailleurs. Mais nous, il y a zéro conséquence. Un mec qui le nombre de mecs qui balancent des conneries sur les réseaux sociaux, des interviews, des machins. Il y a zéro conséquence. De toute façon, tu sais, il y a eu deux. Pour moi, il y a eu deux morts de ce projet. Enfin, deux petites morts. Il y a le Camp Nou, ça on le sait, qui est la mort d'Emery, pour moi. Mais il y a aussi la mort de la crédibilité du club avec l'affaire Aurier.
Ah oui, ça c'est.
L'affaire Aurier, ça a été fatal pour moi. Ouais, Aurier, le mec, tu fais un exemple, tu dis, écoute, mon pote, dégage, ouais, terminé, fini.
Non.
Terminé, voilà, t'as dit ça à ton entraîneur. Et le mec, comment veux-tu gagner contre Manchester City derrière? T'as tué ton coach.
Et moi, j'étais choqué que Nasser aille devoir jouer en réserve. Pour moi,
Manchester City,
je bloque là-dessus.
C'était, on venait de tuer notre groupe en fait en faisant ça.
C'est le problème du pouvoir aux joueurs en fait. Paris, c'est ça le gros problème, c'est les joueurs qui ont le pouvoir.
Ils vont se plaindre au président. Et puis je pense aussi que, tu sais, malgré toute l'affection qu'on a pour certains joueurs, il y a aussi des générations qui faut savoir clore, tu vois. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, qu'on n'a pas aimé ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que, par exemple, la Coupe d'Europe, on ne l'a pas gagnée avec Ginola, on ne l'a pas gagnée avec Ouya, et on ne l'a même pas gagnée avec Valdo, tu vois. Donc, ils ont permis, tu sais, il y a plusieurs fusées.
Mmh.
Plusieurs
c'est étages un accessite, quoi.
Voilà, tu penses à qui, à Verratti, à des joueurs comme ça?
Ben, en fait, c'est terrible parce que lui, en même temps, je le trouve touchant et en même temps, il m'énerve. Et ce que je veux dire, c'est que Verratti,
t'as vu quand il n'était pas là vendredi, on voit que quand il n'est pas là.
Non, mais tu veux que je fasse un truc? Tu me dis, il n'est pas là contre une grosse équipe, ça nous manque. Le jour où il nous manque contre Saint-Etienne, c'est qu'on a un autre problème que Marco Verratti.
Son histoire n'a jamais commencé. Comme quand
on dit, il n'y avait pas Thiago Silva. Non, j'espère qu'on peut battre Saint-Etienne avec Kimpembe et Marquinhos. Bon. Moi, pour moi, c'est plus large que ça. C'est un après Monaco. Bon. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des mecs. Voilà, Thiago Silva, il a été parfait. Mais pour moi, Thiago Silva, il a fait. Ouais. Cette histoire est terminée. Et ça ne veut pas dire dégage, t'es qu'une merde. Ça veut dire merci.
Ils sont nombreux sur la liste, là, quand même.
Ouais, il y a Mota.
C'est l'équipe qu'avait bâti, justement, Leonardo Ancelotti au début. C'était Mota, c'était Verratti, c'était Rigo est déjà parti.
Excusez-moi, ça aussi, c'est la marque d'un grand club, savoir gérer ses joueurs en fin de carrière.
Même Xabi Alonso est parti du Real Madrid. Hein.
Et notre ami Iniesta va partir en Chine, non ?
Et Buffon va arrêter.
C'est vraiment où il était au bout du bout du bout. Mais tu vois, par exemple, des fois, il faut savoir dire. Alonso, il est quand même parti au Bayern 2-3 ans, donc il avait encore de la caisse. Ouais. Mais les mecs, il n'y a pas de souci. Salut.
Daniel Alves au Barça.
Voilà, merci. Merci, mais au revoir. C'est-à-dire que, tu sais, quand on nous dit, ouais, l'argent fait pas tout, mais mec, parce que si tu prends les meilleurs à chaque poste, au bout d'un moment, t'as les meilleurs à chaque poste. Le Real Madrid, ils ont les meilleurs à chaque poste. Donc, à un moment donné, tu vois, nous, on a les meilleurs à quelques postes qui font de l'esbrouf, mais on n'a pas les meilleurs en coach. On n'a même pas un mec qui est dans le top 5 en tant que coach. Non. Donc, moi, si tu me dis, vous, votre PSG, vous avez un mec qui a gagné la Ligue des Champions, vous avez les meilleurs à tous les postes et vous gagnez pas, j'ai dit, d'accord, mais c'est pas le cas.
C'est loin d'être le cas.
Au milieu de terrain. Voilà, c'est qu'au milieu de terrain, on a un mec du centre de formation, un mec qu'on a acheté qui avait 19 ans, qui était à Palerme, ou je ne peux pas Palerme, je ne sais pas où il était. Voilà.
Gardien aussi.
Verratti.
Ah, il était à Pescara.
Pescara, voilà.
Et en plus, Verratti, il est l'heure de se demander si on ne s'est pas tous un peu enflammés dessus, quoi.
Mais c'est fini. Bah, l'histoire de Verratti, elle n'a jamais commencé.
Moi, je me demande s'il ne progressera pas ailleurs que chez.
Mais évidemment.
Mais ça va faire mal. De voir lui ou Pastore péter un truc en partant.
Non, Pastore, je ne serais pas dégoûté parce qu'au bout d'un moment.
Ah ouais, ça te gonfle vois, aussi, mais moi quand même.
Moi, le énième, tu vois, je vais pas faire comme les mecs qui disent oh merde, on a raté Ibisevic. Non, au bout d'un moment, au bout de 8 ans, Ibisevic est devenu le deuxième meilleur buteur d'Allemagne. Ah ouais.
C'est qui Ibisevic
qui était parti à Dijon avant d'aller en Allemagne.
Ouais. Ah, voilà. Okay. Moi, je tombe pas dans
C'était un Americano, Yugo, je sais plus quoi.
J'ai envie de vous faire terminer sur cette tentative de définition du Paris Saint-Germain en parlant de jeu un peu. Est-ce qu'il y a un jeu, une identité de jeu qui traverserait l'histoire, qui serait un peu l'identité du PSG?
Le bordel.
Moi, j'ai pas l'impression, là, mais...
Moi, il y a un truc. Hier ou avant-hier, j'ai joué au golf avec un pote. Et à un moment donné.
Pas mal, tu l'as placé.
Non, non, c'est pas ça. Ouais, laisse-moi
alors,
finir.
Il va voir les Knicks. Il joue au golf.
Laisse-moi.
J'étais au Rotary Club avec des amis.
Laisse-moi finir.
Ce type, je peux faire le tour du monde en 80 jours.
Non, mais ce type, c'est Jordan.
Non, mais
ce type, c'est Jordan.
C'est insupportable.
C'est Jordan, ce
merci. Fermez-la.
On va finir par l'aimer, cette chanson.
Donc.
T'as pas rendez-vous à l'église.
Non, mais attention, je le remets. Faites gaffe. À un moment donné. Je mets un putain de coup de fer 3 et là je gueule. Et là, la balle arrive sur le green et je dis j'ai mis une patate de pain cran. Ouais. Et j'étais avec deux mecs qui disent ah, t'es un supporter du PSG, machin et tout.
François Hollande, et pour moi,
c'est ça quoi. C'est moi, ça. Je me rappelle qu'à cette époque-là.
Mais c'est pas une tactique de jeu, la patate de pain cran.
Non, mais laisse-moi finir. Ah, c'est pas une tactique de jeu, mais à cette époque-là, il y avait un esprit. Il y avait un milieu, putain, mais ça faisait bonder. Je vais au parc aujourd'hui.
Au PSG,
je regarde. Ben oui.
Non, mais moi, je pense que ce PSG, à cette époque-là, faisait plus peur en Grande Europe que le PSG d'aujourd'hui.
Ben c'est ça. Mais aujourd'hui, on parle
faut
de Verratti.
Faut pas exagérer, non.
De Verratti, mais t'as fait quoi,
moi, je me rappelle
Verratti,
à l'époque.
Déjà, on parle de Verratti, il a fait quoi?
Non, mais enfin, on a fait des gros matchs, mais je sais pas si on faisait peur parce qu'on n'a pas eu le temps de faire peur. On a eu le temps de battre le Real et d'ailleurs de perdre contre Arsenal assez sobrement. Donc, je sais pas si on faisait peur. Ouais.
En tout cas, cette année, depuis 2-3 ans, on fait pas peur, contrairement à ce que.
Non, on faisait peur aux Espagnols sur 3-4 ans.
Ouais.
Mais ils étaient dans une période où ils étaient un peu moins bien aussi. Parce que le Real combat, surtout la deuxième fois, c'est vraiment un Real qui est à la cave. Donc, c'est spécial.
Et par contre, le Barça qui nous bat avec la remontada, le Real qui nous bat là cette année, c'est quand même pas les grands Barça et les grands Real. Et c'était pas le grand Manchester City.
Oui, mais. Juve,
en fait, oui. Ouais,
ce que je veux
pas,
dire, non, mais c'était beaucoup plus prenable qu'il y a quelques années.
Ceux qui étaient le plus prenables, parce que là, on parle d'équipes qui avaient un creux. Oui, mais ils avaient un creux, mais c'est des mecs, c'est le même groupe qui avait gagné la Champions League. Donc, à un moment donné, sur un coup de. Ça commence à nous faire chier. Parce que ce qui fait qu'ils sont dans le creux, c'est qu'ils ont tout gagné, ils ont un coup de moins bien, ils ont de la lassitude. Ils ont pris une branlée à l'aller. C'est ce qui peut arriver de pire parce que les mecs tout d'un coup l'ADN de ce qu'ils sont. Moi pour moi le Barça qui était vraiment un fin de cycle qui était mort.
Oui, celui où Pastore
rate. C'est celui où c'est celui où on perd parce que derrière ils prennent 3-0 et 4-0 contre le Bayern. Ils sont cuits. Messi est blessé et c'est Pedro leur deuxième
meilleur
joueur.
Mais le Barça de la remontada, il prend 3 fois il prend si je me souviens bien 2 fois 3-0 contre la Juve, et il en met pas un non plus hein.
Qui ?
Le Barça de la remontada.
Non, il fait 3-0 et 0-0.
Ouais, enfin il met 0 but.
Oui, mais ce que je veux te dire c'est que oui, ils sont. Mais pour le coup, je les ai trouvés moins nuls. Ouais. Parce qu'ils avaient quand même une grosse équipe, tu vois.
C'est surtout nous qui avons été très nuls.
Ouais, nous, on a été très mauvais. Non, mais par rapport à ce qu'on disait, si tu disais sur le style du PSG.
Ouais.
Moi, il y a un truc, tu vois, souvent, je compare par rapport à Marseille. Eux, ils ont toujours eu des grands 9 et nous, on a toujours eu des grands 10. Si tu regardes le PSG, c'est souvent des 10.
Pas
c'est
faux.
Valdo, Rai, Leonardo, je mets Djorkaeff dedans, Susic, Daleb. Ronaldinho en fait et eux
Luis.
Okocha,
une culture du 10 plus que du 9 finalement alors que c'était les Papins ça a été
Bokšić il y a eu le Sonny Anderson
et récemment Gignac même si c'est
Ravanelli
et en fait c'est eux c'est les 9 et en fait pour moi le PSG c'est une équipe qui a toujours été un peu dans le et qui va justement avec ce côté un peu flambeur bourgeois
Brésil.
C'est-à-dire que quelque part c'est terrible alors que je l'adore. Un mec comme Cavani, il est beaucoup plus fait pour l'OM que pour Paris.
Ouais, il ira jamais.
Il ira jamais, évidemment. Mais ce que je veux te dire, c'est que quelque part, c'est presque un ovni au PSG, ce mec. Il a réussi à s'imposer, alors que, et d'ailleurs, on voit que parfois, il dénote, parce que justement, toute l'équipe, elle est de plus en plus, entre guillemets, Brésil ou Argentine. Et lui, il dénote parce que lui, il est uruguayen et il a un côté vachement Marseille dans son style.
C'est dommage parce que le PSG est parti quand même avec des grands neufs. Hein. Carlos Bianchi, quand même.
Non, mais il y a en deux saisons. Il dit pas qu'il n'y en a pas eu.
Les noms qui te reviennent, c'est les 10.
C'est intéressant ce parallèle, je trouve, entre les 9 et les 10. Jonathan.
Moi, en fait, je voudrais juste sortir du terrain parce que je pense qu'on n'arrivera jamais vraiment à définir le PSG par rapport à un jeu.
J'en serais incapable, moi.
C'est pas comme les Barcelonais.
On n'a jamais été une équipe de jeu vraiment directe avec un mec devant qui bourrine et qu'on adule.
Ça, c'est sûr. Mais le, je vais faire juste un petit crochet, moi, c'est sur les tribunes, du coup, parce que je considère que ça fait aussi partie de, pour le coup, de la façon dont on pourrait décrire le PSG. Et nous, les supporters, l'humour qu'on peut avoir et l'analyse avec.
On n'a pas encore parlé du parc, c'est vrai.
On n'a pas parlé du parc, on n'a pas parlé des tifos, on n'a pas parlé de tout ce qui fait que finalement, on aime le PSG. Pour moi, c'est le Parc des Princes.
Bien sûr.
C'est cet endroit où tu sais que tu peux balancer de la vanne et.
Oui.
Non, c'est même c'est un humour. Tous les supporters ultra ou pas ont de l'humour, mais l'humour au parc, c'est quand même. Moi, je l'ai jamais rencontré nulle part ailleurs. Cette façon de s'autoflageller,
l'autoflagellation peut-être. Je sais pas. Moi, je trouve quand même qu'à Marseille, ils peuvent être très bons. Hein. Par exemple, je vois pas ça à Lyon, par exemple.
Bien sûr. Ah oui.
Mais Lyon n'est t'as pas de public.
Mais Paris, il y a quand même cet auto-dénigrement caustique. Ouais, alors c'est vrai que t'as raison, ils l'ont à Marseille aussi.
Marseille,
ouais.
Non, quand même.
Si, Marseille, le mec qui pète Marseille, ça, si, si.
Ils peuvent être très, très bons sur ça.
Les chèvres
avec les numéros et tout.
Une acclamation.
Non, mais le Parc des Princes,
de Marseille,
oui,
c'est intéressant.
Le Parc des Princes.
Moi, par exemple, c'était génial quand ils m'ont chanté Julien Cazard est un PD. C'était quand même beaucoup pour rire. Hein.
Bien sûr.
Et c'était drôle, ils l'ont chanté à 3000. C'est impressionnant.
Non, mais ils ont ri aussi parce que ta réaction était drôle.
Ouais,
non,
mais...
Si tu leur avais fait un doigt
d'honneur
ou un
bras. J'ai un de mes potes d'Action Discrète qui est très pote avec des ultras, enfin qui est ultra marseillais lui aussi. Et il fait partie d'ailleurs de mes meilleurs souvenirs dont on parlera tout à l'heure. Et alors, ce qui était drôle, c'est qu'en fait, tu vois une partie. Deux mecs qui me crachent dessus, qui m'insultent, mais vraiment c'est au premier degré, et l'autre moitié qui rigole en le chantant. Donc c'était drôle, il y avait les deux. Mais non, mais ils ont beaucoup d'humour. Je pense que c'est un truc d'ailleurs qu'on a en commun. C'est-à-dire, c'est ça le fait d'avoir plutôt de l'humour. Mais tu vois, tu pensais sûrement notamment à la banderole sur les ch'tis. C'est vrai que tu la trouverais pas partout. Mais en même temps, les Lillois en ont fait une aussi. Tu vois, ils avaient fait la vérité sort de la bouche des Parisiens. Donc, tu vois, bon.
Comme souvent.
Non, mais c'est drôle, tu vois, juste après. Même je crois qu'elle était à trois étages d'ailleurs la banderole des Parisiens parce qu'il y avait excusez-nous on savait pas que vous saviez lire et la troisième c'était allez, sans rancune on est tous frères enfin surtout vous
moi j'ai mon pote Rico qui m'avait appelé le lendemain en disant ils ont oublié alcoolique et qui est un mec du Nord
ouais. Non mais c'est vrai, non, mais le pire c'est qu'à cette époque pour faire un petit crochet rapide sur ce truc là c'était que ça avait fait marrer les ultras.
Bien sûr.
C'est justement les bien-pensants à la con de ce bien pays qui n'attend que ça. C'est les mêmes mecs qui n'aimaient pas le foot et qui disaient qu'il fallait que Thierry Henry se dénonce et qu'on n'aille pas à la Coupe du Monde. Tu vois, ces mecs-là qui s'intéressaient pas au foot. Non, mais à un moment donné, tu dis, bah, tu t'intéressais pas au foot et tout d'un coup, c'est comme quand Le Monde ou Libé, ils parlent pas de foot et puis à un moment donné, ils font 5 pages sur un scandale du PSG. Tu dis, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Ça vous intéressait pas il y a 2 semaines. Voilà. Donc moi, pour moi, les banderoles, ça fait quand même plutôt marrer les gens du foot. Et ça énerve ceux
d'ailleurs,
qui n'en
faudrait,
sont pas.
Il faudrait en faire un livre un jour. Ah si, ça serait beau.
Bah oui.
Grande page, ça va être ça.
Des banderoles du PSG, celle du Vélodrome.
Ah oui, il y en a même quelques-unes de Marseille qu'on pourrait mettre dedans.
Non,
ouais,
il y en avait drôles à Marseille. Il y avait des costauds hein, quand il y avait les gros derbies.
Ah, pour moi, c'est l'essence même du PSG, le Parc des Princes.
Mais alors, dans ce cas-là, si on parle du Parc des Princes, on va parler de ce qui fait l'ADN et ce qu'on a perdu. Et c'est un de mes meilleurs potes, Nicolas Poli, qui l'analyse très bien. C'est le maillot qu'on a perdu.
Ah bah oui, mais moi, quand j'en parle, on me dit mais non, t'es rétrograde, tu fais partie de ces vieux.
Ah non, mais pour moi, la tunique, ça fait aussi partie.
Le symbole, c'est important. Mais on est dans une époque où le symbole, c'est montré du doigt, c'est réactionnaire. Alors
non, mais
symbole...
là, je crois que c'est beaucoup plus pragmatique que ça. C'est-à-dire que c'est pour vendre des maillots, et
bien
si t'as le même maillot tous les ans, tu n'es pas sûr de le revendre.
Oui, mais de là enlever, tu peux faire des déclinaisons, mais de là enlever les couleurs, de modifier le logo.
Non, ça, je suis d'accord.
Moi, je pense que leur rêve, c'est de plus s'appeler PSG au bout d'un moment. Paris.
Non,
Paris Fashion Week, tu vois, c'est plus que PSG.
Non, je pense que Paris Saint-Germain, ça va rester. Mais pour moi, il y a une forme de respect, même pour les joueurs. Le fait de se dire, tiens, je porte le maillot.
Ce maillot,
de
et
Paris,
quand tu vois un autre mec le porter, c'était le même maillot.
Mais par moment, t'as l'impression de voir jouer Bordeaux avec le nouveau maillot un peu bleu.
Non, il est dégueulasse. Vois,
il est dégueu, mais
le jaune, à la rigueur, il est tellement loin que bon.
Mais les maillots extérieurs ou les sœurs, à la rigueur, ils veulent au niveau marketing et pour le coup, les ventes. Mais quand tu regardes Liverpool.
La Juve, le Real.
Mais en plus, ça m'étonne d'eux parce qu'avec tous les bobos, tous les CSP+ qui sont blindés, ils devraient faire un maillot presque vintage avec les vraies couleurs.
Mais
oui, ça
mais
cartonnerait.
Ils vont le faire une année.
Ouais, mais ils vont pas
c'est ce qu'ils faisaient tous les. En fait, rappelle-toi, à un moment donné, ils nous avaient bien niqué les mecs. Ils avaient trouvé la technique. Excuse-moi pour le mot niqué et je le redis. Mais ils faisaient le maillot nickel PSG. L'année d'après, un maillot pourri. Du coup, tu le rachetais. Les mecs gueulaient. Ok, on vous écoute. Et en fait, une fois sur deux, t'avais le bon maillot parce que ça te permettait
si ça
quand même
l'année
de le racheter.
Prochaine, le retour du maillot HTR.
T'annonce que l'année prochaine, ils vont revenir à un truc plus classique. C'est sûr.
Je te confirme. Je l'ai vu.
C'est affreux.
Camouflage.
Affreux. Non, il est dégueulasse.
Ah ouais.
Il est vraiment dégueulasse.
Qu'on va réussir à faire pire que les Marseillais des années 2000.
Écoute, j'en sais rien. Mais
t'aimais pas le truc Burlington Reggae là.
Ouais. Il y a eu Burlington et Reggae.
Ce qui m'étonne avec.
De toute façon, c'est tous les clubs qui sont qu'on se soucie là. Quand on voit cette année, la Juventus de Turin là.
Le logo a changé, mais le maillot il a pas bougé.
Oh le maillot quand tu vois la Juve à la télé, tu sais que c'est la Juve.
La Juve à la télé, ça marche. Mais il y a quand même. Pas mal de clubs, bon, c'est pas non plus.
Non, mais là,
ou un vendeur footlocker.
Ouais. Ouais, c'est clair. Ou un arbitre de
NBA. Ok. C'est l'arbitre de hockey qui a fait le Vendor Foot Locker.
Mais par contre, sur les maillots, et je pense que c'est un phénomène que vous avez aussi vu se développer dans les rues de Paris et partout en France ou à l'étranger, c'est qu'au niveau merchandising, on vend les joggings, les vestes, les sweats, c'est en train d'exploser, oui, c'est ouf.
Parce que tu t'en trouves dans des endroits où tu n'en trouves pas.
Là où je veux en venir, c'est que
dans le monde entier, c'est
tu
vrai.
Peux respecter le maillot parce que tu sais que par ailleurs, tu vends à mort sur d'autres produits. Et continuez si vous voulez.
Tu sais qu'il y a un truc, alors, pour avoir discuté avec des mecs qui bossaient avec des équipementiers, qui est un peu flippant et qui expliquait aussi pourquoi Marseille, souvent il y a des maillots qui étaient flippants. Ils disent le problème c'est que la plupart de ceux qui achètent sont beaucoup des jeunes. Okay, et ben les jeunes, ils ont souvent des goûts dégueulasses. Je te jure, c'est les mecs qui disaient, nous on a fait des études de marché, le truc qui se vendrait le mieux, c'est le truc que tu trouveras le plus moche. C'est fluo. C'est nous, quand on voit les maillots DDE du Barça, on se dit, mais ils sont où ? Mais les mecs, c'est que des ploucs qui aiment le Barça. Donc les mecs, ils savent très bien qu'ils veulent en vendre 1 million. Mais non, mais oui !
Non, mais il a raison.
Tu sais, la différence entre le Real, ils n'ont pas besoin de faire ça. Le Real, c'est le club de la bourgeoisie classe. Les autres, c'est des nouveaux riches, les Barcelonais, les Catalans. C'est des ploucs, c'est terrible à dire. Mais quand tu vas au Camp Nou, tu le sais.
C'est quand même les inventeurs du Patacourt, les
Catalans. Qu'ils nous fassent un essai, juste.
Et c'est pour ça que s'ils veulent vendre, ils sont obligés de faire ça.
Ils nous le font une saison, bordel, une saison. Et je peux vous assurer qu'autour de la table, les gamins, on habille tout le monde. Ma femme, je lui achète un maillot. Si c'est juste une question de vente,
normalement, je vais essayer si je croise un mec du PSG, c'est de le convaincre.
Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, qu'à tous les échelons, il n'y a plus de passionnés de l'équipe dans la structure du club.
Ouais, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Aujourd'hui, autour de la table, on a tous plus de 40 piges. Et qui achète aujourd'hui, c'est pas nous. C'est-à-dire que.
Nos enfants, éventuellement.
Laissez-moi terminer.
Mon fils.
Mais non, laissez-moi terminer. On n'aura jamais la même consommation. Tu vas pas acheter 4 sweats à capuche, 4 jogging, c'est pas vrai.
Tu connais le prix d'une call girl russe ?
Ça dépend où tu vas. Va en Russie. Prix d'usine.
On n'a pas la même consommation. C'est une réalité.
C'est pour Marlène, ça, si elle nous écoute.
Donc, en fait, c'est le jeunisme, encore une fois, qui salit tout.
Non, mais quel vieux con, celui-là.
Oh, c'est insupportable. Mal, on peut finir là-dessus.
Il est quelle heure à Bamako, Jean ?
La météo, tout de suite.
On passe à la rubrique la de fin d'émission. Oui. Avant de se quitter, pour se détendre un petit peu, puisque là on était tendu, hein, ça se sent.
Était hyper tendu.
On va finir avec quelques questions aux supporters que tu es. Ça s'appelle le questionnaire rouge et bleu. Première question, messieurs, hein, vous pouvez aussi intervenir, donner votre version. Quel est ton premier souvenir au Parc des Princes ?
Alors, c'était mon. Alors, Parc des Princes foot, hein, parce que j'étais amené tout régulièrement pour le Tour des 5 Nations, c'était un cauchemar pour moi. Et j'avais pas le droit de voir du foot. Le premier, c'était un PSG Lille. Un match dégueulasse de 91,
un
des premiers matchs de l'ère Canal. Et je jouais avec mon meilleur pote et tout. Et il y avait un mec, c'était génial, qu'il y avait un mec qui avait une énorme perruque rouge à Auteuil. Alors, peut-être que vous vous en rappelez de ce mec, une énorme perruque bouclée rouge. Ceux qui ont été à Auteuil, ils s'en rappellent peut-être de ce mec. Il était tout le temps là, une énorme perruque bouclée rouge. Et il gueulait 2-0 pendant tout le match. 2-0 depuis le début du match, il y a eu 2-0. Donc, on s'est dit, ce mec, c'était mon idole. Ce mec. J'ai dit, bon, ça a marché qu'une fois. Après, il a gueulé 2-0 tout le temps. Il y a eu que. Et attends,
c'était un bipolaire.
Et le même match, t'avais Yazid Sanjak qui s'échauffait avec Joël Cloarec. Ça sort d'une autre époque.
Joël Cloarec.
Qui s'échauffait devant, parce qu'on est Auteuil rouge en bas, donc tu les voyais. Et il y a des mecs qui gueulaient Sanjak ! Sanjak ! Je dis, mais qui c'est ce mec ? Enfin, moi je connaissais pas, je connaissais de loin, mais je comprends pas gueuler Sanjak. Comme c'était le seul mec qui était là qui s'échauffait. Et bon, voilà, c'était mon premier souvenir du Parc des Princes. Et les deux buts ont eu lieu de l'autre côté, donc j'ai pas vu.
Comme toujours.
Quel est ton meilleur souvenir de victoire ?
Alors, le problème, c'est que je pourrais te sortir PSG Real parce que j'y étais, mais bon, c'est un. Bon, voilà, évidemment, il y a PSG Real et PSG.
Le 4-1.
Ouais, j'y étais. Donc, c'était ouf.
Trop facile.
C'est trop facile. Donc, je vais te dire un truc. Tu parles au Parc des Princes, toi ?
Victoire de Paris.
Alors, victoire de
Paris. Tu sois là ou pas, bah, victoire de Paris.
Si, moi, génial. Je suis avec Toen, mon pote marseillais. On est avec des potes dans un appart. C'est un match, un OM PSG.
où l'OM, ils nous mettent une branlée dans le jeu, mais on ne voit pas le jour. Mais c'est l'enfer. Et Stéphane, il m'insulte pendant tout le match. Et la dernière minute, il y a un contre avec Pauleta qui part tout seul, qui frappe. C'est repoussé par Rougnier, je crois. Et c'est Fiorez qui marque.
Ah bah oui.
Mais c'est le braquage.
Le hold-up.
Mais c'est le plus gros braquage de l'histoire du PSG, je pense vraiment. Et là, mais je te dis pas l'autre, il hurlait, il pleurait, sa haine. Et c'est, franchement, c'était magnifique.
Victoire 1-0 sur ce match.
Après, il y en a eu d'autres. Tu vois, j'ai vécu avec lui aussi le 3-0 au Vélodrome avec Ronaldinho.
J'étais dans les tribunes marseillaises.
Et là, c'est magnifique. Souvenir. Mais ce 1-0, il est tellement dégueulasse.
Ouais,
il est tellement
mieux.
Sale.
Je suis d'accord. C'est mieux.
Que c'était magnifique.
Ton meilleur souvenir de défaite?
Alors, si, il y en a un.
Il y en a une, normalement.
C'est Bordeaux au Parc.
Avec le pénalty raté.
Non, le Bordeaux, quand on laisse Bordeaux gagner le titre.
Oui, mais pour moi, c'est pas une défaite. Donc. Ouais, c'est une victoire. Plus beau souvenir de défaite, parce qu'on en a tous rigolé, c'est on reçoit Guingamp, on n'est pas bien. On reçoit Guingamp au Parc. Il y a 0-0 à la mi-temps. Et à la mi-temps, il y a Rai qui revient, qui fait un tour d'honneur avec son écharpe et tourne et tout cela. Ça nous fait trop, parce que ça nous fait mal, parce qu'on se rappelle qu'on était, il n'y a pas si longtemps, un gros club. Et il y a une frappe, une espèce de frappe en cloche de loin d'un Guingampais. Letizy est sur la balle, il attrape la balle, il rentre dans le but avec. Il ne se rend pas compte qu'il est derrière sa ligne. Vous ne vous rappelez pas de ça? 1-0.
Si.
C'est le genre de choses qu'on préfère oublier.
Comment t'expliquer? Il a la balle dans les mains, il la ramène à sa poitrine, il se rend compte, il retend les bras, mais l'arbitre siffle, il y a but. Tu peux le retrouver. Hein, mais on a pleuré de rire tellement c'était pathétique.
Tous les tizis. Voilà.
Rapidement, ça c'est typique du PSG aussi. Souvent, quand un ancien joueur revient donner le coup d'envoi ou se montrer à la mi-temps et tout ça,
ça nous porte pas bonheur. Ouais.
On perd.
Donc c'est pour ça que le prochain, le snipe.
Aïe, c'est un club superstitieux en fait.
Mais non, mais c'est le cimetière indien, je te dis le Parc. C'est le cimetière indien.
Ouais, c'est
bien un truc.
Quel est le joueur que tu as le plus aimé à Paris et pourquoi?
Alors, justement, c'est Valdo. Parce qu'en fait, il y en a eu plein que j'ai aimé, mais c'était logique, tu vois, les Ronaldinho et tout ça. Mais Valdo.
Valdo qui est servi dans la surface de réparation face à Rocha. Valdo frappe, frappe de Valdo. Et c'est le but.
Là, évidemment, c'est Ricardo Rocha qui tourne son cul. Sur une feinte, mais décolle sur le troisième but de PSG Real.
C'était notre petit cadeau du virage.
Non, mais Valdo, parce que je trouve que ce mec, il était extrêmement complet. Limite, le joueur aujourd'hui qui lui ressemblerait le plus en moins offensif, c'est Marco Verratti. Mais sauf que lui était beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que tu regardes. D'ailleurs, pour moi, PSG Real, ça symbolise tout. Il est sur tous les buts. Sur tous les buts, il y a Valdo. C'est-à-dire que le mec, il avait la vision du jeu. Il avait pas c'est pas un joueur de stats. En fait, c'est comme Iniesta. C'est pas des joueurs de stats. Si tu regardes les stats, Iniesta, c'est pas un grand joueur.
C'est la tour de contrôle.
C'est un mec, il a le jeu juste, l'orientation, le dribble qu'il faut. C'est incroyable d'intelligence de jeu. Et peut-être qu'à l'époque, c'était pas assez médiatisé le foot. On était plus dans l'appréciation que dans l'analyse. Et il n'était pas mis au rang de ce qu'il valait, je pense, Valdo. On a beaucoup mis en valeur Ginola et Rai. Mais Valdo, c'était un mec. Il est parti un petit peu dans l'anonymat, je trouve. Par rapport à la qualité qu'il avait.
Quel est le joueur de Paris que tu as le plus détesté?
Hugo Léal. Alors, Hugo Léal. Mais il m'énervait que sa tête de con. Et Louis le mettait toujours titulaire. Ouais. Et jouait... Mais ce mec, il était nul.
Il coûtait cher.
Et on nous vendait que c'était un prodige portugais. Mais c'était un nul. Mais nul. Et le pire, c'est que le seul jour où tu dis « Ah non, je me suis trompé, finale de Coupe de France », il marque un but, derrière il se fait expulser et on perd 2-1 contre Auxerre. Voilà. Merci Hugo. mais Hugo Léal, moi je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas.
Les autres, si vous avez des idées, vous.
Ah
vous
ouais, mais attends, il y a eu Van Der Ville. Grégory Van Der Ville. Alors lui, je l'aurais tabassé.
Tatoueur. Et de temps en temps footballeur.
Il doit bien s'entendre avec Memphis Depay.
Ouais, impossible. Ouais, c'est un peu les mêmes. Ouais.
Et moi j'ai une question con. Tu préfères Okocha ou Pastore?
Alors, tu sais quoi, au final, je préfère Okocha.
Ah,
moi aussi.
Merci.
Parce que je sais pas. Pastore, j'aurais pu le préférer, mais il a raté tous les moments où j'aurais pu le préférer. Okocha, malheureusement, il n'est pas forcément entouré de la même équipe
que
Pastore.
Carrément.
Mais je trouve qu'il a eu des moments où il a été extraordinaire et parfois il a été mis sur le côté au lieu d'être mis dans l'axe. En numéro 10, sa meilleure saison, quand on finit deuxième, il joue 10. Et puis il a eu des moments extraordinaires. Enfin, moi, pour moi, c'était un mec. C'était un mec fabuleux et voilà, moi aujourd'hui Pastore aurait pu passer devant mais il a pas passé le cap. Donc pour moi je mets Okocha.
Pour moi c'est Okocha, je suis d'accord.
Okocha, pur joueur du PSG.
Hein ?
Pur joueur du
ouais,
PSG.
Ouais, c'est pour moi c'est
Pastore aussi hein. Dans la loose.
Normalement oui. J'ai. Normalement oui. Mais
la question impossible, on va essayer de pas passer une demi-heure dessus. le 11 de rêve, toute époque confondue.
Alors, oui, il faut faire des choix. Donc, écoute, j'ai envie de te dire, bah, dans les buts, on n'a pas beaucoup de choix. Hein. Bernard Lama, puisque je ne mets plus Joël Batz. Hein.
Moi, j'avais hésité,
alors,
puis
tu
as raison.
Maintenant. Alors non, tu savais qui j'aurais hésité ? J'aurais hésité avec Baratelli. J'adorais ce mec. Ouais, et pour moi, s'il est à la Coupe du Monde, on ne perd pas au pénalty. Après, on ne fait pas l'histoire. Mais voilà, donc je mets Bernard Lama. En défense centrale, je mets Ricardo et Gabriel Heinze.
Pas Carcouri.
Alors j'ai hésité avec Carcouri et Sami Traoré comme duo, voire Rabé Yepes. Non, non. Donc je mets Ricardo et Heinze parce qu'il y a un mélange de défense et de caractère. Voilà. Je pense qu'il y en a un des deux qui nous manque un peu aujourd'hui. Gabi Heinze. À gauche, et là je fais un peu une arnaque parce que j'ai envie de le mettre. Mets Leonardo parce qu'il a joué arrière-gauche pendant des années avec l'équipe du Brésil.
C'est vrai.
Et ouais, le premier match qu'il fait au Parc des Princes dans un match amical PSG-Brésil, il joue arrière-gauche. Et il nous met la race tout le match, on ne sait pas qui c'est ce mec.
Il joue plus arrière-gauche.
Après la Coupe du Monde 94, non. Mais en Coupe du Monde 94...
Bien ça, tout est possible dans le football.
Voilà.
Milieu de terrain.
Ensuite, arrière-droit. Arrière-droit, au final,
attention.
J'hésitais entre Sassus.
Ah oui.
Parce que c'est drôle.
C'est drôle. Et le pire, c'est que comme j'ai envie de lui donner sa chance sur le long terme, j'ai envie de mettre Meunier parce qu'il peut devenir ça.
Oh non, qu'on en a... là, je
attends,
là je te suis pas. Arrêtez avec Meunier.
Vous vous rendez pas compte
bien,
pour moi, c'est
poste...
une arnaque.
Non, mais sauf que je te dis, ce poste est peut-être le poste où on a été le plus nul parce qu'on a eu Cristobal, oui, Potillon. Oui. Okay, bon, on a eu tous les mecs. Potillon encore, il était pas si mauvais. Mais
non, mais je te suis, moi, il m'énerve pour d'autres raisons.
Marquinhos a été bon.
Ouais, mais Marquis, ouais, tu peux mettre Marquis.
Ah,
ouais,
meilleur dans l'axe, aussi, hein. Mais à droite, allez, il était fort.
Tu l'as pas mis dans l'axe, tu peux.
Alors, tu sais quoi, si je veux mettre un mec qui a été arrière droit plein de fois alors qu'il est central, et du coup, je raconte l'histoire aussi, je mets Antoine Camboire. Il a joué plein de fois arrière droit.
Ah bah,
donc,
c'est quoi,
Antoine à droite, c'est bien ça.
Ouais, voilà, comme ça, au moins, je te mets un truc. Au milieu, je te mets Thiago Motta. C'est le meilleur 6 qu'on ait jamais eu. On n'a jamais eu des très, très grands 6 à part Le Guen. C'est pas notre poste.
Ouais, je suis d'accord.
Donc, je mets Motta.
On est tous d'accord.
Il faut faire des choix. Je mets Valdo. Et Valdo et Rai. Ensuite, je mets Ronaldinho. Je mets Ginola Weah. Alors, je mets pas Neymar pour l'instant.
Oh non, mais Neymar, c'est trop tôt.
Il
non, mais
sa place là-dedans.
Trop tôt.
Dans un an, peut-être que je mettrai
pas
Neymar.
Pas Cavani, pas Pauleta, pas Susic.
Alors,
sur le banc.
J'aurais bien mis Susic.
Au cocha sur le banc.
En fait, pour moi, j'aurais mis Susic parce que pour moi, Susic, c'est l'équivalent de Rai, largement. Mais je vais être honnête, j'ai plus connu Rai. Bah parce que Susic, soyons honnêtes, quand t'allais pas au parc, moi j'avais pas le droit d'aller au parc.
Moi c'est juste, je l'ai connu à la radio. Hein.
Et voilà. Le problème c'est que j'ai pas eu le temps. Pour l'histoire du club, je le connais, mais je n'ai pas assez. Moi je l'ai plus apprécié en tant que joueur de la Yougoslavie qui nous a mis 3-2 avec l'équipe de France qu'avec le PSG parce qu'on le voyait pas à la télé le PSG. Ouais, on ne le montrait pas à la télé. Vrai, et moi j'avais pas Canal quand j'étais gamin.
Quel coach pour cette équipe ?
Quel coach ? Alors.
Arthur ? Arthur Georges ?
Ouais, je vais mettre quand même Arthur Georges parce que c'est le coach de mes plus belles émotions. Donc je mets Arthur Georges. Première mouture. Et puis c'était un mec qui avait gagné la Champions League quand il arrive quand même. Faut pas oublier quand même qu'à l'époque, on recrute un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions. T'as aucun mec qui a le niveau, à part Ancelotti, t'as aucun mec qui avait le niveau d'Arthur Georges. On oublie peut-être ça aussi. Et quand ils viennent de Benfica, je sais même pas s'ils ont pas gagné la Ligue des Champions avec Benfica, Ricardo et Valdo.
Non.
Mais en tout cas, ils étaient dans un gros club. Ils étaient dans un club qui l'avait gagné il y a pas longtemps. Enfin, quand ils viennent de Benfica, c'est pas un club de merde, tu vois. On recrute des stars, quoi, tu vois.
Quel président ?
Quel président ? Bah, t'es obligé de mettre Deniso. Même si j'aurais mis Kazak, par amour du club.
Pas Borrelli.
Ah oui, Borrelli, je suis con. Non, mais le problème, c'est que Borrelli, moi, je te dis...
T'aimes pas les bases en ville.
En fait, c'est Borrelli, c'est le président ultime. C'est vrai. Mais c'est vrai que pourquoi il m'est pas venu tout de suite ? Parce que moi, je te dis, le PSG de Borrelli, c'est un truc que je vais dire par histoire, tu vois. Parce que sinon, en fait, en vrai, dans mon 11, je te mets Daleb, je te mets d'autres mecs, tu vois. Moi, j'ai pas, malheureusement pas eu le temps de le connaître assez. Ouais. Mais évidemment, si tu dois le mettre dans l'histoire, c'est le numéro 1, c'est sûr. C'est sûr, c'est lui, en vrai.
Quoi, Colonie Capitale ? Non, je déconne.
Ouais, j'ai hésité avec Pierre Blaillot, moi.
On avait une question sur la meilleure banderole, mais on a déjà fait un petit peu...
Non. Alors moi, celle que j'ai adorée, c'était pour Marseille, parce que c'est plus drôle. C'était le savon, le fabriquer, c'est bien, s'en servir, c'est mieux.
Et en plus, il est fabriqué à Bordeaux, le salon de Marseille, grande partie. Non,
je trouvais que c'était génial.
Moi, on en parlait l'autre jour, mais j'avais bien aimé. Et en
plus, t'attendais pas à celle-là, t'as oublié.
C'est pas vraiment le lieu pour le dire, mais l'été où on commence contre Bastia au parc en août, et Colonna vient de se faire arrêter par GIGN, je crois, et Boulogne déploie transfert de l'été Colonna à Paris.
Voilà, bon, c'est bon, c'est voilà. Bon.
Ça nous permet de préciser qu'on enregistre ici, chez Colonna.
Chez Colonna.
34 rue Le Mercier, au Batignolles. Et merci à Cyril Colonna de nous accueillir.
Merci pour ces pizzas.
pizza.
Ah oui, non, mais attends,
je suis à moitié corse. Je ne voudrais pas que ma maison brûle à Montreuil. Je suis à moitié corse, vive la Corse.
C'est quelle moitié?
Ah, la bonne, bien sûr.
C'est moi. Ça sera par la mer aussi.
Si le PSG était un film.
Alors, tu sais quoi, c'est simple. Pour moi, c'est le Titanic. Pourquoi? Parce que, non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que c'est magnifique, long, c'est majestueux, c'est riche.
Et ça coule à
c'est,
la fin. Et
c'est superbe, c'est insubmersible. Et au premier iceberg, ça se pète la gueule. Tout le monde veut prendre le canot de sauvetage, mais on continue de jouer de la musique.
Exactement.
Voilà, y a la
t'as pas mieux.
Ah, c'est bien.
Ou la 7ème compagnie, ou seul contre tous, ça dépend des joueurs. Ouais.
Ouais, je préfère encore le Titanic alors.
Non, parce qu'il y a quelque chose de majestueux et d'élégant dans la façon de mourir.
Et puis on entend la musique
ouais,
là, qui continue.
Ça joue du violon. C'est...
Si le PSG était une chanson.
Alors, si le PSG est une chanson,
un morceau quoi, et, de la musique.
Alors non, c'est pas Jump. Je pense que ça serait. Alors j'hésitais. Alors oui, effectivement Phil Collins parce que c'est terrible. En fait, comme j'arrivais pas à faire le choix, j'ai pensé à Phil Collins. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rappelé que pendant des années, Phil Collins, c'était le truc qui nous faisait vibrer, alors qu'on n'avait plus rien qui nous faisait vibrer au parc. Dans le jeu. Je te jure, t'avais les boules d'arriver en retard et de louper le tin-nin où tu tapes dans les mains. C'était impossible. Moi, avec mon pote, quand on arrivait à la bourse, j'ai dit putain, merde, on va louper Phil Collins. Et quelle que soit l'équipe, tu pouvais avoir Talal, tu pouvais avoir Apoula Edel, t'avais Phil Collins. C'était comme une Madeleine de Proust. C'est-à-dire que c'était le seul truc que t'avais en commun avec les fois où t'avais gagné avec Ginola et Weah. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça que je ne peux pas enlever Phil Collins.
J'ai vraiment l'impression que le PSG, les supporters du PSG en tout cas, sont tous des sadomasochistes.
Oui,
mais tous les supporters sont des sadomasochistes. Non
bah, mais nous, c'est vrai qu'on est
un peu. PSG, quand même, on est pas mal.
Demande au René.
Ouais, je pense qu'il y a des.
Mais Phil Collins, c'est la Golden Bar.
Plus maso que sado, finalement.
Ouais. C'est vrai.
Mais il y a une forme de romantisme là-dedans.
Bien sûr.
C'est ça, c'est pour ça que je suis romantique.
Quel match as-tu raté et tu le regrettes profondément?
Alors, en vrai.
Tu l'as pas vu. Et tu t'en veux.
Moi, un match que. Je sais qu'il y a un match, j'en parle souvent parce qu'il n'était pas plein. C'était le fameux match de 94. Parce que tout le monde nous dit, ouais, c'était le PSG où les supporters c'était des vrais. Il ne faut pas oublier qu'il était un tiers vide, le match du coup du titre, PSG-Toulouse. Et j'avais chopé un rencard avec une meuf, une bombe atomique. Une bombe atomique. Je vais au cinéma avec elle, c'était le seul soir où elle pouvait. Donc
une brésilienne.
Non, une portugaise. Franchement, elle était pas mal pour une portugaise.
Est-ce mais qu'elle tout se coiffait sous les bras
comme... Non, je rigole. Non, elle était magnifique. Je vais au cinéma avec elle, je loupe le match. J'avais mal calculé mon coup. J'avais pas oublié que c'est le match du titre. C'était un PSG Toulouse. Je dis bon, je vais rien louper. Et je suis dégoûté. Elle me met un râteau, mais absolu pendant le film. Elle a mais t'as jamais vu ça de ta vie. Je sors du cinéma, je suis aux Champs-Élysées. Je suis dégoûté, je suis au fond de la caisse. Et là, je vois arriver tous les mecs. Qui
ah, mais tu vois qu'ils viennent sur les champs.
À l'époque, ouais. À l'époque, ouais. Parce que les joueurs avaient rendez-vous au Phuket. Sinon, on n'y serait jamais allé aux Champs-Élysées. C'est parce que, rappelle-toi, les joueurs, ils allaient fêter les titres au Phuket. Et donc, ils sont tous au Phuket. Et la meuf, elle me dit, ouais, tu me raccompagnes. Je lui ai mis un gros dégage. Il y a dégage. Elle s'est barrée. Je suis allé rejoindre les autres au Phuket. Je suis un vrai beauf.
Et t'as oublié son prénom depuis, mais par contre, t'as oublié aucun joueur du PSG.
Non, elle s'appelait Dalila. Elle se reconnaîtra.
Tu étais sur son.
Ton plus beau souvenir de déplacement.
Alors, il faut savoir un truc, c'est que moi, j'en ai fait très peu des déplacements. J'en ai fait très, très peu parce que moi, ça m'angoissait. Et je t'ai dit un truc terrible, c'est que j'avais fait des déplacements avec les Marseillais. Je voyais tellement de cassos. Il n'y a pas que ça. Hein. Mais dans les mecs qui se déplacent, tu as quand même du cassos hein, dans tous les clubs. Hein. Et c'est marrant, ça m'angoissait. Je me dis, je ne veux pas voir ça chez moi, dans ma famille. Je ne veux pas aller voir, j'ai trop peur. Bon, c'était une erreur. Mais puisqu'en fait, quand tu es dans la famille, il faut accepter tout le monde. Et non, mais en tout cas, j'en faisais pas beaucoup des déplacements. J'en avais pratiquement jamais fait. Le seul que j'ai vraiment fait en mode déplacement, c'est le Camp Nou. Avec les supporters, eh ben, je peux te dire, ça m'a calmé.
La remontada.
Ah, voilà. Donc, mon plus beau souvenir de déplacement, comme j'en avais pas fait beaucoup, j'ai adoré le Anderlecht PSG le dernier. Parce que ce qui était génial, c'est qu'on est arrivé au stade. Et ben, Anderlecht, c'est un stade où. T'as pas l'impression que c'est la Ligue des Champions, c'est encore ambiance, c'est le bordel dehors, t'as plein de baraques à frites, de machins. Aujourd'hui, tout est quadrillé, Ligue des Champions, c'est l'horreur. Et là, t'avais l'impression que t'allais voir un match de district, mais dans le bon sens du terme, c'était vraiment sympa. Tu peux pigoler. Bon, alors après, une fois que tu rentres dans le stade, tu picoles de la bière de merde, hein, 0% de matière grasse. Et d'ailleurs, c'était marrant parce qu'à côté de moi, il y avait un Belge. Il fait toi pour Paris, toi. Mais cet accent-là, je dis oui, il dit oh là, ben nous, je veux te dire, on est bien contents, on va se faire une branlée, on se faire éliminer, on va reboire de la vraie bière. Hein. C'est avec la Ligue des Champions, on boit de la pisse. Donc voilà. Donc, mais c'était génial, génial, franchement. Et puis les mecs, ils étaient tellement drôles, les supporters d'Anderlecht. Ils ont une chanson improbable de Tonton Jojo, là, je sais pas quoi, avant le match. Enfin, c'est super drôle, quoi. Et donc, je me suis régalé. En plus, on leur a mis une sacrée tôle.
T'as une chanson de supporter, justement, du parc
Du parc.
Que tu préfères?
Alors, de chantable à l'antenne?
Non, c'est non, vrai que t'es chanteur aussi.
Moi, non, mais moi, j'adorais le fameux Tapis est un enculé, Papin est un bourrin, qui était improbable et qu'on a chanté pendant des années, alors qu'il n'y avait ni Tapis ni Papin.
Ouais, ouais.
Donc, et moi, je me rappelle qu'il y a 2-3 ans, avec, on a, dans notre petit groupe qu'on est, la force d'être tous ensemble, on commence à se connaître. On avait réussi à créer un mini-groupe de 10-15 et on arrivait à faire chanter à tout le monde Tapis est un enculé, Papin est un bourrin en 2016. C'est quand même improbable, dans une tribune latérale en plus. Donc, celle-là était très drôle.
L'insulte, le juron, favori, que tu as entendu au parc
J'avais entendu quoi Non, j'avais entendu un truc génial, c'était CRS impuissant, les matraques font pas d'enfants. Parce que les mecs chargés sur nous.
Elle est pas mal.
Faut que je la retienne, très bien.
Nous, on avait lancé à l'époque en Tribune K une crêperie pour Le Gouen quand on n'en pouvait plus. On chantait ça tout le match. Ça n'a pas marché.
Ah, Polo, c'est mon pote.
Ah ouais, mais putain,
on t'embrasse.
La fin
de
la carrière. Moment d'émotion, t'as pleuré au parc?
Ouais, ouais, ouais. Et je vais te dire un truc très con. J'ai un souvenir. J'ai pleuré plusieurs fois.
Au concert de Céline Dion, non?
Ouais.
Non, je déconne.
Non, non, mais
on a tous pleuré au parc. Si t'as pas pleuré au parc, t'as pas aimé le parc.
C'est vrai. Non, non, mais je me rappelle d'un truc très précis. Il y a un PSG Bordeaux avec Ronaldinho. Il met, je crois, il met un doublé. Dont une fois, oui, il y a le premier but, je crois, il accélère. Les mecs osent pas l'attaquer. Finalement, à la fin, il fait un vieux plat du pied dans le but, mais parce que les mecs ont tellement peur d'aller sur lui. Et il met un doublé. Genre, la deuxième balle, je crois que c'est une balle lobée ou une frappe enroulée. Et je me suis levé, on était avec un pote, on avait les larmes aux yeux, on était comme deux cons, on s'est vus tous les deux avec les larmes aux yeux, on s'est dit « Merde, on est vraiment des pauvres types ». Et c'est vrai, mais voilà. Et je me rappelle de ça, alors que j'ai pleuré plein de fois, mais ça, je ne sais pas pourquoi ça m'avait cueilli. Ouais, mais c'est vrai que moi, j'ai pleuré souvent au parc.
Quand
mais
rien.
Plus de joie,
ouais.
En fait, de déception. Moi, je pleure rarement de déception, je suis plus atterré, je ne bouge plus, mais je pleure plus de joie.
C'est vrai que Ronaldinho faisait souvent pleurer.
Ouais. C'était impressionnant.
Dans les backrooms aussi.
Ouais. Alors ça, c'est autre chose parce que j'ai pas connu, moi.
Les départs, c'est toujours triste au parc Paoletta.
Rail, rail, c'est... Rail.
Et moi, j'ai pas pleuré au départ de Rail. Je trouvais ça cool. Mais alors moi, ça m'a touché. Mais je pleure pas pour ça. Moi, c'est plus.
Moi, le soir où on gagne contre Marseille avec le but de dingue de Vikash là. Mais moi, je vais dire un truc. Je l'assume. Hein, le We Are the Champions. Je pense qu'on trouvera jamais une meilleure chanson les soirs de victoire dans un stade. Peu importe le stade.
Ouais, mais le problème, c'est qu'on a gagné la Coupe de la Ligue et t'entends We Are the Champions of the World.
Oui, mais on s'en fout. Ouais. Bah, déjà, t'es pas obligé d'être polyglotte. Et puis, mais le morceau est quand même assez entraînant et en même temps émouvant. T'as picolé un peu. T'es avec tes meilleurs potes. T'es bien. Tu sais que ça va pas durer tout le temps.
C'est vrai que là, sur ce coup-là, ils ont fait fort.
C'était donc le tout premier épisode du podcast du Virage. Merci beaucoup, Julien Cazard.
C'était le plaisir.
C'était un vrai plaisir de partager ce moment-là avec toi et d'apprendre tout ça sur le Paris Saint-Germain. Merci, Jonathan. Merci, Fred. Merci, Jérôme, merci Jean. Et merci, Xavier Chevalier, le boss, le rédacteur en chef qui
yes.
était au platine.
Number one, il est là, représente.
Yes, c'est lui qui a envoyé les jumps. Dans vos Pardon. Faces.
Merci Xavier. Merci Xavier. C'est grâce à toi qu'on est là.
Merci particulièrement à Cyril Colonna qui nous accueille donc dans son restaurant dans le 17e à Paris, rue Le Mercier. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et donc un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la newsletter de Virage. C'est virage.paris. Un petit peu d'autopromo. C'est gratuit, c'est bourré d'infos et de dossiers passionnants sur votre club. On y retrouve les rubriques des uns et des autres.
C'est gratuit.
Les papiers de Jérôme Réjas surtout. Qui sont vibrants. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast. Au revoir Julien.
Au revoir à tous, merci Salut. De m'avoir invité.
Et allez Leipzig.
Et surtout n'oubliez pas...
Ça surtout pas.
Allez Paris.
Allez, salut, ciao.